Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et bienvenue sur L'Art Appliqué, le podcast Growth Marketing pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, j'interviewe des experts marketing et growth pour parler entre autres de la façon dont ils appliquent le framework AR. Dans cet épisode, on va parler de YouTube et surtout de l'algorithme de YouTube. Comment ça fonctionne, comment tirer parti si on veut tenter l'aventure YouTube dans sa stratégie de contenu et faire la promotion de sa boîte. Alors, vous êtes vraiment vernis, j'aurais aimé disposer d'un épisode de podcast comme ça quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. C'est juste un trésor d'infos et de retours d'expérience incroyables. Cela m'aurait évité de tomber dans tous les pièges alimentés par des croyances qui circulent et des gens qui relaient sans tester par eux-mêmes. Il y a même des réflexions sur l'algo que vous n'entendrez nulle part ailleurs.
Imagine que tu es une personne qui te suive sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter, et que dans les 48 premières heures, tu mets ta vidéo en public sur YouTube et dans la foulée, tu l'intègres à un tweet et tu l'intègres à ta page Facebook. Donc forcément, quand cet utilisateur va se connecter à son compte YouTube ensuite, YouTube va très certainement lui recommander ta vidéo.
Il va pas cliquer.
Mais cette personne l'ayant déjà vue ne va pas cliquer dessus.
Okay.
Et donc ça va diminuer ton taux de clic. Donc ça peut être un petit peu contre-productif.
Sylvain Lepoutre, c'est la personne de la situation. Il fait ses tests depuis 10 ans sur la plateforme et en a fait au fil du temps sa spécialité. Aujourd'hui, il a plusieurs chaînes à succès et accompagne des marques et des créateurs dans leur stratégie de contenu YouTube. Une approche pragmatique et fine pour démêler le vrai du faux. Et vous allez voir qu'au cours de l'interview, j'ai compris et appris de nouvelles choses sur l'algo de YouTube. Instant promo, j'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma newsletter, la Growth Semaine, pour recevoir chaque dimanche le meilleur des contenus Growth Marketing de la semaine. Les secrets de l'algorithme YouTube, on en parle tout de suite, c'est parti. Je reçois aujourd'hui dans le podcast Sylvain Lepoutre. Salut Sylvain.
Salut.
Sylvain, je suis très content de te recevoir car tu es pour moi le meilleur expert YouTube francophone, rien que ça. Tu es créateur depuis 10 ans sur YouTube, sur la plateforme, avec notamment la chaîne Mon Petit Réflexe sur la photo, donc beaucoup de retours d'expérience. Et dorénavant, tu crées du contenu sur cette thématique YouTube avec ta chaîne Le Coin des Youtubers et aussi avec le podcast Les Créateurs Vidéo où tu interviews d'autres Youtubers. Alors, ton contenu est très pragmatique et tu tombes pas facilement dans les biais cognitifs qui nous trompent lorsqu'il s'agit d'essayer de comprendre l'algorithme de YouTube. Alors, mon postulat avec ce podcast, c'est que le framework Growth Marketing AR peut s'appliquer à n'importe quel type de business et en l'occurrence peut très bien s'appliquer à une chaîne YouTube. Alors, pour te faire rapidement l'analogie, l'acquisition, donc c'est le premier A de AR, sur YouTube, ce serait la découvrabilité de ta chaîne. L'activation, c'est quand un viewer décide de vouloir être mis à jour sur ton contenu, et donc il s'abonne. La rétention, c'est le créateur qui reste en contact avec son audience, mais dans le temps. Le referral, c'est quand l'abonné en parle autour de lui, le partage. Et puis enfin, le revenu, c'est l'argent qui rentre, donc les différentes façons de faire entrer de l'argent avec une chaîne YouTube. Alors déjà, est-ce que ça te paraît cohérent cette analogie du framework AR appliqué à YouTube?
Ouais, ça me paraît très très cohérent effectivement, parce qu'on passe par les mêmes phases, comme tu as très très bien décrit, par rapport à chaque viewer, on va dire, de la chaîne, même si on n'a pas forcément une relation directe avec chaque viewer individuellement, mais on va créer du contenu pour faire de l'acquisition, on va créer du contenu pour faire de l'activation ou de la rétention. Voilà, on va créer des contenus un petit peu différents pour ces différentes étapes, comme une startup créerait des steps pour justement activer, faire de la rétention et faire de la vente. C'est exactement la même chose sur YouTube, donc je pense que c'est assez intéressant et ça va être des bonnes discussions qu'on va avoir aujourd'hui.
Alors, donc du coup, tu veux dire qu'il y aurait des stratégies de contenu et qu'il y aurait des vidéos différentes en fonction des objectifs. C'est ça que tu es en train de me dire.
Bien sûr.
Pour parler de YouTube de façon plus générale, moi, quand j'ai commencé à creuser pour justement voir les différentes type de contenu qui était possible de faire sur YouTube, je suis tombé sur une théorie qui s'appelle la théorie des 3 H, qui sont Hero, Hub et, alors je vais le dire en français, hygiène, mais je pense que ça doit être hygiene ou un truc comme ça.
Hygiene.
C'est une théorie qui dit que les types de vidéos Hero, ça va être pour faire le buzz, enfin voilà, entre guillemets, essayer d'attirer le plus de monde possible, faire de la découvrabilité. Les types de contenu Hub, ça va être des contenus plus de rétention pour les abonnés, la fidélisation, on va dire. Et hygiene, c'est pour le search. Donc purement une vidéo pour essayer d'être trouvé sur le long terme sur des mots-clés. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces trois types de contenus? Est-ce que c'est quelque chose que toi t'appliques?
À peu près, ouais. Alors, je les appelle pas pareil, mais ce que j'applique et ce que j'explique aux personnes qui suivent le coin des youtubeurs, c'est de faire trois types de contenus aussi, mais c'est pas exactement les mêmes catégories. Il y a le contenu que j'appelle découverte, où là, le but, c'est de créer du contenu pour une audience large, c'est-à-dire qui va être intéressé par votre thématique, mais pas forcément directement. Parfois, c'est des personnes qui sont un peu sur la brèche, et si vous faites une vidéo sur ce sujet-là, et que vous la tournez bien et qu'elle est suffisamment attractive, ces personnes vont s'intéresser à votre contenu, vous allez les faire rentrer en fait dans votre environnement proche. Donc ça, c'est le contenu découverte, et le but, c'est que ces vidéos, effectivement, soient vues par beaucoup de personnes, et sur ces vidéos, on fait particulièrement attention à utiliser les bonnes pratiques pour satisfaire l'algorithme de YouTube et que YouTube recommande votre contenu tout seul. Vous n'avez plus rien à faire après derrière. Donc ça, c'est un premier type de contenu. Le deuxième type de contenu, c'est le contenu communautaire qui pourrait s'apparenter un petit peu au contenu hub dont tu me parles. Où là, l'idée, c'est de créer du contenu spécifiquement pour votre audience cible et pour vraiment entretenir cette relation, créer ou entretenir cette relation qu'on va avoir avec ces personnes. Et c'est du contenu qui, généralement, n'est pas fait pour être répandu partout sur la toile, mais c'est plutôt vraiment du contenu où on va rentrer dans le détail, on va parler très spécifiquement aux besoins des personnes qui vous suivent ou de votre audience cible. C'est du contenu qui est très important. Et puis, le troisième type de contenu, c'est du contenu vente, c'est-à-dire des vidéos spécifiques dédiées à proposer des produits, des services ou aller chercher des prospects, par de la capture mail ou d'autres possibilités. Mais ça, c'est un type de vidéo spécifique aussi. Et souvent, la difficulté de beaucoup d'entreprises, c'est que quand elles démarrent, elles veulent tout faire dans la même vidéo. Elles se disent, on va faire une vidéo qui va faire le buzz, mais il faut qu'on essaie de créer aussi une relation avec le viewer et puis on va proposer notre produit à la fin.
Ouais.
Bizarrement, tu vois, sur un site web, on va pas essayer de tout mettre sur la même page, mais en vidéo, on a envie de tout faire dans la même vidéo et ça marche pas. Il faut segmenter aussi les différents objectifs.
Ok, donc du coup, ta stratégie ressemble pas mal aux 3H, excepté que dans les 3H, il n'y a pas les contenus promotionnels qui vont du coup faire sortir de YouTube pour faire de la vente. Parce que ce qui m'intéresse le plus dans cette conversation, ça va être les types de chaînes qui ont effectivement une activité à promouvoir en dehors de YouTube. C'est-à-dire que YouTube se suffit à lui-même, on est d'accord, avec ce framework art, ça fonctionne, mais à un moment, le R de revenu à la fin, il faut le monétiser. Et un des moyens de le monétiser, et en particulier pour le type de chaîne qui nous intéresse là, c'est de sortir de YouTube pour faire des ventes. Donc là, finalement, ton système s'adapte beaucoup plus à la typologie de chaîne qui m'intéresse. Acquisition. Donc, de façon générale, quelles sont les différentes façons d'être découvert sur YouTube?
La meilleure façon d'être découvert sur YouTube, c'est de jouer le jeu de l'algorithme. La bonne nouvelle, c'est que YouTube essaie de plus en plus de faire en sorte que ses algorithmes servent le meilleur contenu pour une personne donnée à un moment donné. Donc en fait, il faut tendre à faire le contenu le plus utile possible, le plus agréable à regarder possible. Et quelque part, l'époque où on essayait de trouver des petits hacks ou des petites astuces pour tromper l'algorithme, elle est un petit peu révolue. Et même si vous trouviez un hack aujourd'hui, peut-être que dans 3 mois, ce hack ne marcherait plus. Donc, vous avez intérêt à faire des vidéos de qualité qui répondent à un besoin de votre cible. Et quelque part, c'est vertueux pour tout le monde. Et en fait, une fois que vous avez créé du bon contenu comme ça, vous avez effectivement plusieurs endroits où YouTube peut mettre en avant votre contenu. Il y a la page d'accueil. Donc, typiquement, des gens qui se connectent sur YouTube. Et puis, YouTube va reconnaître que des personnes similaires à vous ont apprécié cette dernière vidéo que vous avez sortie. Et donc, du coup, vont vous recommander cette vidéo-là. Et vous allez découvrir une nouvelle chaîne comme ça juste en arrivant sur YouTube. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, ce sont les suggestions de vidéos. Donc, c'est la colonne à droite quand on regarde sur ordinateur une vidéo et c'est la ligne de vidéos qui sont en dessous quand on est sur téléphone.
Et pourquoi, excuse-moi, mais pourquoi la recommandation de la page d'accueil et les suggestions de vidéos ne sont pas les mêmes? Parce que moi, sur ma chaîne YouTube, dans les stats, j'ai beaucoup de trafic qui vient de la page d'accueil, donc de la recommandation, et très peu des suggestions. Alors, pourquoi il y a une dichotomie comme ça entre les deux?
Eh bien, parce qu'en fait, c'est pas exactement les mêmes conditions de visionnage. La page d'accueil, c'est ce qui va démarrer une session de visionnage sur YouTube. Donc, par exemple, si toi tu as l'habitude de regarder quelques vidéos rigolotes avant de te mettre sur des vidéos plus sérieuses, par exemple, bah, ta page d'accueil va ressembler à une page qui va proposer plein de divertissements, des choses comme ça. Les suggestions, généralement, c'est en cours d'une session de visionnage. C'est-à-dire que tu as déjà regardé plusieurs vidéos ou une vidéo et on va t'en suggérer d'autres sur le côté pour continuer une session. Donc, on n'est pas dans le même état d'esprit.
Okay.
Et c'est pour ça que des fois, certaines vidéos marchent très bien en page d'accueil pour ouvrir une session et marchent moins bien dans l'autre sens. Et après, dans tes statistiques à toi, si tu vois beaucoup de vues sur la page d'accueil, c'est aussi parce que tu as une bonne partie de tes abonnés qui se font suggérer tes vidéos sur leur page d'accueil et qui ne vont même plus dans leur flux abonnement pour voir les vidéos, mais ils les voient directement sur la page d'accueil.
Ok, d'accord. Okay. Très bien, je comprends. Tu disais, donc, recommandation page d'accueil, suggestion dans la colonne de droite.
Et puis recherche, parce qu'effectivement, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde qui appartient à l'entreprise qui possède le premier moteur de recherche au monde, Alphabet et donc Google. Donc, effectivement, le moteur de recherche ne fonctionne pas pareil parce qu'il n'a pas été développé par les mêmes équipes. YouTube avait développé son moteur de recherche bien avant que Google les rachète. Et effectivement, YouTube étant un réseau social, étant axé aussi sur le divertissement, n'a pas toujours les mêmes objectifs que Google. Mais ça reste aussi un moteur de recherche et donc c'est aussi un moyen d'être découvert, d'avoir du contenu qui est bien répertorié dans le moteur de recherche.
Bon, alors du coup, l'erreur de base que j'ai faite moi, c'est justement de se dire, bon, comme YouTube appartient à Google et que c'est le deuxième moteur de recherche, donc il doit y avoir des analogies, on va essayer d'optimiser le SEO de mes vidéos pour apparaître dans les résultats de recherche des mots-clés qui m'intéressent. Donc, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, l'optimisation des tags, les keywords, les machins, changer des titres. Et en fait, tout ça est un échec. Tout ça est un échec parce que on croit qu'on va pouvoir utiliser YouTube comme le SEO de Google et ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est la première frustration pour quelqu'un qui vient essayer de promouvoir une activité sur YouTube, c'est ça. Alors, moi j'ai quelques idées sur le sujet, mais j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses. Comment on fait du coup si on veut essayer de ranker plus haut sur des mots-clés ?
C'est compliqué parce qu'effectivement, comme tu le dis, ça fonctionne pas comme ça. YouTube va bien au-delà des mots-clés aujourd'hui. Et si effectivement on fait un titre, on remplit des mots-clés dans le titre et on remplit des mots-clés dans les tags, bah les gens n'ont pas envie de cliquer sur une vidéo comme ça. Les gens veulent cliquer sur une vidéo qui répond à leurs questions ou à leurs problèmes. Si on parle de la recherche en particulier, souvent les personnes posent une question à Google, comment apprendre Photoshop. Est-ce que ta vidéo répond Photoshop tutoriel guide complet ou est-ce que ta vidéo répond apprendre Photoshop en 20 minutes facilement? Et apprendre Photoshop en 20 minutes facilement, ça reprend pas tous les mots-clés que j'ai mis dans ma requête, mais par contre, c'est exactement ce que je cherchais. Donc, je vais cliquer dessus beaucoup plus facilement que sur la succession de mots-clés. Et ça, c'est le signal que YouTube va regarder. YouTube va beaucoup plus regarder le comportement des utilisateurs face à des résultats de recherche que un enchaînement de mots-clés ou si on a mis plus le mot-clé dans notre description qu'une autre vidéo. Et il y a même des fois, dans les résultats de recherche, des vidéos qui ne reprennent aucun de nos mots-clés, mais qui répondent à notre quête. Et ça, YouTube arrive à le deviner parce que YouTube arrive très bien aujourd'hui à déterminer quelle est la catégorie d'une vidéo et à quelle requête ça répond. Que ce soit en écoutant tous les mots qui sont prononcés dans la vidéo, YouTube retranscrit tout ça en texte, donc il y a déjà énormément de données comme ça, dans les commentaires, dans la description évidemment, etc. Mais aussi en regardant le comportement des utilisateurs, c'est-à-dire si une personne qui regarde beaucoup de personnes qui regardent des vidéos sur Photoshop regardent aussi ma vidéo, il y a de bonnes possibilités, de bonnes probabilités que ma vidéo soit aussi sur Photoshop. Donc YouTube arrive à déduire comme ça avec plein de données, plein de data derrière. Et le gros avantage pour YouTube, c'est que ça leur permet justement de s'éloigner des données qui sont fournies par le créateur, qui peuvent être trompeuses parce que le créateur peut mettre des mauvais tags, peut justement essayer de tromper l'algorithme. Et donc YouTube n'a plus tellement besoin de ces infos-là aujourd'hui. Et c'est pour ça que la recherche fonctionne un petit peu différemment de Google. Mais faut pas oublier que les vues en provenance de la recherche sur YouTube, c'est une minorité sur YouTube, c'est minoritaire. La majorité des vues proviennent des suggestions, des vidéos en page d'accueil, de tout ce que YouTube va nous pousser comme contenu. et pas du tout par la recherche. Donc la recherche, c'est bien, ça peut être bien pour démarrer pour certaines petites chaînes, mais il faut très vite passer à autre chose et à essayer de viser les recommandations et les suggestions de vidéos qui sont beaucoup, beaucoup plus puissantes. Mais voilà, la recherche n'est pas un but en soi, à part pour quelques business très particuliers.
Ok. En gros, on peut essayer de faire de la recherche, mais c'est juste qu'on va passer à côté des plus gros leviers de YouTube. Mais moi, par rapport à mon expérience, en fait, c'est assez lié. Parce qu'en fait, si on veut essayer de commencer à jouer avec les plus gros leviers, eh bien, il faut donc, comme tu disais, jouer le jeu de l'algo. Et en fait, c'est en jouant le jeu de l'algo que moi, du coup, j'ai fini par avoir des rankings sur des mots-clés que j'avais laissé tomber, en fait.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant parce que, tu vois, évidemment, ce que tout le monde a entendu parler, c'est-à-dire qu'il faut avoir un bon taux de clic sur la preview, donc le CTR, et il faut avoir un bon watch time, donc le temps de visionnage. Ça, c'est les trucs qui circulent, qui sont, à mon avis, évidemment, tu vas me dire ce que tu en penses, mais sont assez critiques et assez vrais. Et ben, quand j'ai optimisé ça, finalement, j'ai fini par ranker sur des mots-clés que j'avais en objectif et que je n'arrivais pas du tout à apparaître dans les résultats de recherche. Et à partir du moment où j'ai augmenté mon CTR et mon watch time, et ben là, pour le coup, j'ai fini par apparaître sur les mots-clés, quoi. Finalement, c'est un peu obligatoire et c'est un peu lié. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas se détourner des règles du jeu, quoi.
C'est vachement intéressant parce qu'effectivement, si tu te débrouilles très très bien pour viser les suggestions et les recommandations YouTube, il y a de bonnes chances que ta vidéo finisse par ranker aussi dans la recherche. Alors que l'inverse, généralement, n'est pas vrai. Quand on fait tout pour ranker dans la recherche, généralement, on a des vues qui ne viennent que de là. Juste pointer un petit peu les différences et pourquoi je sépare les deux. C'est que quand on vise les suggestions, la page d'accueil, etc., ce qu'on va essayer, c'est de créer une curiosité chez les gens, que les gens soient un peu intrigués par le titre et se disent « Mais ah oui, effectivement, je ne m'étais jamais posé cette question, mais maintenant que je vois cette question devant moi, il faut que je sache la réponse, il faut que j'aille voir. » On crée cet élément de curiosité qui fait qu'irrésistiblement, les personnes vont avoir envie de cliquer sur la vidéo. Et ensuite, on va tourner la vidéo d'une certaine manière à ce que les personnes soient un peu embarquées dans l'histoire avec nous et aient envie de regarder la vidéo longtemps et de commencer à nous connaître, etc. Donc ça, c'est un petit peu les techniques qui font qu'on arrive à avoir à la fois un bon taux de clic et un bon watch time, qui sont un peu qui est un peu la formule magique pour réussir sur YouTube. Et en fait, quand on vise uniquement les bons résultats dans le moteur de recherche, les mots-clés restent importants parce qu'effectivement, si je tape une requête sur YouTube, je m'attends à ce que dans le titre et dans la miniature, il y ait certains mots-clés qui apparaissent. C'est pas parce que ces mots-clés apparaissent que YouTube va me mettre en premier ou en deuxième. Mais si je tape recette de spaghetti, je m'attends à voir spaghetti dans le titre ou spaghetti sur la miniature. Donc en fait, ça va me donner des contraintes quelque part sur mon titre et ma miniature. Et ces contraintes-là vont faire que généralement, je vais faire un titre très descriptif, une miniature très évidente, mais qui du coup n'auront pas cet élément de curiosité qui pourrait aider ma vidéo à décoller dans les suggestions sur YouTube. Et c'est ça un petit peu le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, c'est que on se dit c'est cool ma vidéo, il y a du monde qui arrive par la recherche, mais déjà c'est 5 ou 10 fois moins de personnes que ce qui pourrait arriver par les autres moyens de promotion par YouTube. Ouais. Et en plus de ça, c'est un visionnage de moins bonne qualité. Dans la mesure où, en fait, souvent, par le moteur de recherche, ce sont des personnes qui ont un problème, qui tapent leur problème dans YouTube, et une fois que vous avez apporté leur solution, ils disent très bien, j'ai ma solution, super, merci, au revoir. Ils ne vont pas s'abonner, ils ne vont pas vouloir rester sur votre chaîne. Ils ne sont pas dans des conditions où ils sont prêts à découvrir un nouveau créateur de contenu et se dire, c'est super, j'ai envie d'en voir plus. Ils sont dans une situation où ils ont une frustration et ils ont besoin de trouver une solution. Alors, si c'est une vidéo de vente et que dans cette vidéo, justement, vous répondez à la frustration et que la solution derrière, c'est d'aller sur votre site et d'acheter votre produit ou votre service, ça peut très bien fonctionner. Il y a des entreprises qui marchent très bien en faisant de la promotion que sur la recherche sur YouTube, mais c'est un cas très particulier qui fait que vous n'allez de toute façon, dans ce cas-là, pas développer votre audience ou votre communauté YouTube, mais ça peut très bien marcher pour la partie vente quand même.
Ok, donc là quand même, ce qui nous intéresse, c'est effectivement de faire grossir la chaîne de façon organique en utilisant les étapes du framework. Donc en gros, se concentrer que sur le search, non seulement c'est passer à côté des gros leviers que nous offre YouTube, mais en plus, ce serait finalement nuisible pour la croissance de notre chaîne parce que du coup, une fois que la requête est pourvue, le mec se barre. Le mec se barre, donc du coup, on a un watch time par session qui n'est pas à notre avantage. Et est-ce que ce watch time par session est vraiment un critère supplémentaire, en plus du CTR, le taux de clic et du watch time sur une vidéo, pour être bien vu par YouTube. Est-ce que si justement on arrive à faire regarder plusieurs vidéos ou les faire enchaîner sur autre chose dans un flux, est-ce que vraiment c'est quelque chose encore bonus qui nous fait ranker, enfin pas ranker, mais qui nous fait encore plus de découvrabilité sur notre vidéo?
Oui, et c'est YouTube qui le dit, que le watch time, la durée de visionnage d'une vidéo est primordiale, très importante. Le pourcentage de vidéos regardées compte un petit peu aussi. Et effectivement, la session, ce qu'on appelle la session, c'est est-ce que après avoir visionné votre vidéo, les viewers vont continuer à rester sur YouTube et regarder d'autres vidéos ou est-ce qu'ils vont partir tout de suite du site? Donc cette durée de session, effectivement, va vous donner une sorte de bonus. Si vous avez une bonne durée de session, ça va donner un bonus à votre watch time de vidéo qui fait que votre vidéo, du coup, sera un petit peu plus intéressante pour YouTube et sera plus mise en avant par YouTube. Et effectivement, quand à la fin de notre vidéo, on dit à tout le monde d'aller sur notre site internet ou ailleurs, on fait partir les gens de la plateforme. Et ça nous donne plutôt un malus parce que YouTube est pas très content, comme n'importe quel réseau social. Quand on fait partir les gens du réseau social, en général, il va pas mettre notre contenu en avant. Donc ça vaut aussi pour YouTube, effectivement.
Ok. Mais alors du coup, à quoi ça sert de mettre une description et de mettre des tags si de toute façon YouTube va prendre ça comme des signaux plutôt faibles et va juste même retranscrire ce qu'on raconte?
La façon dont l'algorithme fonctionne chez YouTube, ça c'est tiré d'un papier d'ingénieurs qui ont bossé justement sur les algorithmes de recommandation de YouTube, qui ont décrit très précisément comment ça fonctionne. Et donc en fait, il y a deux parties à l'algorithme.
Oui.
Et déjà, il n'y a pas qu'un algorithme, il y a un algorithme par viewer. Chaque personne qui regarde des vidéos a son propre algorithme en quelque sorte. Et comment ça fonctionne? Vous avez d'abord un algorithme de présélection qui va sélectionner un pool de vidéos qui sont potentiellement intéressantes pour vous. Cette sélection va dépendre de votre historique de visionnage, de la plateforme sur laquelle vous visualisez, est-ce que vous êtes sur ordinateur, sur tablette, sur télévision, sur smartphone, on ne va pas vous proposer les mêmes vidéos. De l'heure de la journée. Voilà, ça dépend de plein d'éléments comme ça, donc c'est très très poussé. Et en fait, selon l'heure de la journée, par exemple, YouTube a appris que le soir à 22h, vous préfériez regarder des vidéos marrantes plutôt que d'apprendre une nouvelle compétence. Par contre, à 10h du matin, YouTube sait que vous allez plutôt vouloir apprendre des nouvelles compétences et va pas vous proposer les mêmes vidéos. Donc ça, ce premier algorithme va sélectionner toute une liste de candidats potentiels, de vidéos candidats potentiels, qui pourrait vous intéresser, basé là-dessus, basé sur le comportement d'utilisateurs qui ont des habitudes de visionnage similaires à la vôtre, etc.
D'accord, mais c'est lié aussi, du coup, quand tu fais une recherche, tu as la variable recherche qui vient s'ajouter pour la sélection de ce panel, quoi.
Oui, oui, okay. Complètement, complètement. Mais effectivement, les résultats de recherche ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a quand même il y a des résultats qui sont généralement similaires, mais il y a des résultats qui sont un petit peu différents dans la recherche aussi. Typiquement, bah tiens, par exemple, si moi, dans mes habitudes de recherche, bah, j'ai l'habitude de cliquer sur des vidéos qui durent moins de 3 minutes parce que je veux des résultats très rapides ou des solutions très rapides, bah, YouTube va plus me recommander des vidéos courtes dans mes résultats de recherche par rapport à quelqu'un qui clique d'habitude sur des vidéos longues. Donc, ça peut venir de là aussi. Donc voilà, premier pool, c'est la sélection de vidéos candidats potentiels. Et ensuite, deuxième algorithme, c'est l'algorithme de classement, de ranking, où YouTube va classer ces différentes vidéos les unes par rapport aux autres. Et c'est là que YouTube va se baser sur les taux de clic des utilisateurs dans ces sites, dans ces conditions-là. Donc YouTube sépare bien, est-ce que les gens, est-ce qu'il y a un bon taux de clic dans la recherche ou sur la page d'accueil ou dans les suggestions. Et si ce classement est en train de se faire pour les suggestions que je vais avoir, YouTube ne va regarder que le taux de clic sur les suggestions des autres utilisateurs. Donc c'est bien, ça c'est bien distingué. Le taux de clic et puis le watch time dans ces conditions aussi. Le watch time moyen sur cette vidéo-là. Donc c'est là où en fait vous êtes en concurrence avec une centaine, 200 autres vidéos et c'est là où vous avez intérêt à avoir un bon taux de clic et un bon watch time meilleur que les autres pour apparaître en premier, deuxième ou troisième dans les vidéos suggérées.
Ok, donc en très gros, on a les petits détails, on va dire signaux faibles, qui font qu'on va apparaître dans le premier pool.
Oui.
Donc c'est là où ça peut avoir un intérêt de mettre les tags et compagnie.
Tout à fait.
Et une fois qu'on est là, c'est la guerre, c'est le CTR et le watch time, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Ok, mais alors, un truc aussi, moi j'ai déjà essayé, mais j'ai pas réussi. Mais c'est un peu une légende de ce qui tourne. Voilà, si tu vas essayer de copier des mots-clés qui sont dans une description d'une vidéo qui marche bien sur une thématique et que toi, tu as une thématique qui ressemble et que tu vas aussi copier les tags, peut-être tu as une chance d'être suggéré à côté. J'ai essayé, ça marche pas. Qu'est-ce que tu penses de cette technique? Parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube qui disent que ça marche, qu'on peut faire des merveilles.
Ça peut marcher, si ça marche, c'est génial. Mais en tout cas, moi, à ma connaissance, il n'y a pas de technique infaillible qui permette d'y arriver à tous les coups. Donc, rien n'empêche de tenter le coup. La meilleure solution, généralement, plutôt que d'essayer de trouver des hacks, encore une fois, de mettre les mêmes tags, copier les tags. Alors, copier rigoureusement tous les tags d'une autre vidéo, c'est même passible de sanctions, hein, chez YouTube, donc il faut faire vraiment attention.
Ah, d'accord.
Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est encore une fois de se mettre dans la peau du viewer. Quelqu'un qui a regardé cette autre vidéo populaire dans mon domaine, qu'est-ce qui lui manquerait comme information ou quel type d'information complémentaire pourrait l'intéresser? Et comment moi, je tourne une vidéo spécifique qui pourrait exactement répondre à ce parcours de viewer? Et ensuite, effectivement, je vais essayer de mettre des tags un petit peu similaires. Je vais peut-être même mettre en écran de fin la vidéo de l'autre personne pour essayer de créer cette connexion chez YouTube et que YouTube se dise, ah, il y a peut-être un lien entre ces deux vidéos-là. Peut-être même mettre un lien en commentaire épinglé vers cette autre vidéo pour que, voilà, encore une fois, créer un lien avec la vidéo que vous essayez de viser. Et ensuite, YouTube va très certainement essayer de recommander votre vidéo dans les vidéos suggérées et YouTube va analyser et voir, bah, est-ce que ça fonctionne très bien, est-ce que c'est la meilleure vidéo à suggérer à côté, auquel cas vous allez souvent y être et effectivement là c'est jackpot. Ou est-ce que, bah, au contraire, finalement, vous avez un peu raté votre coup et puis les gens cliquent pas dessus et tant pis, on aura essayé, quoi.
Mais là, tu me donnes des hacks, là, en fait, finalement. Parce que tu me dis, là, essayez de construire votre vidéo avec un angle qui est complémentaire de la vidéo qui marche. Alors ça, bon, c'est pas vraiment un hack, c'est logique, finalement, quand on y pense. Mais après, dans l'écran de fin, allez mettre un lien vers la vidéo, puis allez mettre en commentaire un lien vers votre vidéo. Ça, c'est... Tu fais du contournement de l'algo, là.
J'ai pas dit mettre dans les commentaires de l'autre chaîne un lien vers votre vidéo. C'est mettre sur ta vidéo à toi, en commentaire épinglé, un lien vers la vidéo que tu essaies de cibler.
Ah oui, d'accord, pour plus d'informations, machin. Comme ça a l'air naturel. C'est un peu comme
Voilà.
si tu... En fait, c'est très SEO. Parce qu'en fait, quand tu veux faire
Du backlink.
du linking, ouais, quand tu fais du linking en SEO, il n'y a pas que les liens qui vont mener vers ta page. Il y a aussi, tu vas montrer que tu es lié aux autres pages du même écosystème sur la même thématique. Et la première chose qu'on fait dans une page SEO, en plus d'un lien vers la page mère, enfin ça c'est quand on fait du concours sémantique, on s'en fout, c'est pas le sujet, et ben on fait un lien vers une page d'autorité de la thématique. Pour montrer à Google, ah, t'as vu, pas on est copains, mais je parle du même sujet. Donc finalement, ça peut être intéressant. Ok, super.
Je pense qu'il y a une logique en fait. Alors, ça, c'est des choses qui ne sont pas dites officiellement par Google, évidemment, et par YouTube. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Et encore une fois, moi, je prône plutôt l'expérimentation sur YouTube. Testez des choses et voyez ce qui marche pour vous. Mais il y a une certaine logique quand même. C'est-à-dire que YouTube a besoin de comprendre quels peuvent être les liens entre différentes vidéos. Donc, si vous poussez un petit peu, effectivement, avec quelques tags, avec quelques liens d'une vidéo à l'autre, forcément, YouTube, ça les aide à tester et à se dire, bah, tiens, on va tester, on va la mettre là et voir si ça marche ou pas. Et ils vont très très vite, par l'accumulation de données, comprendre si le lien il est réel ou pas en fait.
Ok.
Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment des hacks, parce que même si vous mettez les bons tags, les bons mots-clés, si en fait en réalité le contenu n'est pas intéressant pour cette audience-là, bah, YouTube va le montrer à 5 personnes et 5 personnes vont pas être intéressées, hop, YouTube arrête de le proposer. Donc les hacks n'ont que très peu d'impact s'ils sont trompeurs. Par contre, si on fait les choses correctement, faire un lien vers la vidéo juste pour pousser et dire à YouTube, eh oh, regarde, ça a une connexion, ça peut être intéressant.
Ok, alors du coup, on en reste au premier pool. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut faire pour apparaître dans le premier pool. Et
Oui.
après, de toute façon, c'est de nouveau la guerre
C'est
du
ça.
CTR et du watch time. Ok,
C'est ça.
très bien. En parlant justement de ce premier pool de vidéos, moi j'ai fait une vidéo sur le marketing de Trump. Et en regardant dans mes... Bon, elle n'a pas trop marché, mais en regardant dans mes stats, j'ai vu que j'ai été suggéré à pas mal d'autres vidéos et que ça n'avait vraiment rien à voir. Et je me suis dit, en regardant ça, bah YouTube a pas compris de quoi je parlais en fait. Il n'a pas compris si c'était une vidéo sur la politique, sur le marketing, enfin il n'a rien capté. Et il m'a montré à côté de vidéos, genre il y en a une qui est en allemand, l'autre qui parle de tir à l'arc, enfin c'est des trucs complètement n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit, mais voilà, c'est juste ça en fait. Il faut aider l'algo à comprendre de quoi on parle. Et peut-être qu'il n'a pas compris. Est-ce que tu penses que c'est ça qui s'est passé pour moi?
Il faudrait que j'aille voir dans tes analytics pour savoir vraiment si ça représente beaucoup de suggestions à côté de ces vidéos. Si par exemple la vidéo en allemand t'a amené 200 vues sur ta vidéo par les suggestions, dans ce cas-là, il y a effectivement Une drôle de connexion.
Non, il a, non, non, c'est, en fait, il m'a proposé à plein de vidéos, mais j'ai pas eu de
D'accord,
vue avec
d'accord.
ces vidéos.
Parce qu'en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que quand ta vidéo est toute récente, ça veut dire dans les premières 48 heures, à ce moment-là, YouTube va beaucoup pousser ta vidéo. YouTube aime beaucoup, hein, pouvoir mettre le petit bandeau nouveau à côté d'une vidéo, il va le mettre beaucoup en avant pendant les premières 48 heures.
Ouais.
Et notamment auprès des personnes qui ont l'habitude de voir ta chaîne, qu'ils soient abonnés ou pas, les personnes qui vont voir ta chaîne régulièrement, bah YouTube va pousser ton contenu, ton nouveau contenu auprès de ces personnes-là. YouTube va le pousser, quelles que soient les vidéos qu'ils sont en train de regarder. Et notamment dans les suggestions, on va souvent voir, même si on est en train de regarder une vidéo sur la pâtisserie, ah tiens, Yann a sorti une nouvelle vidéo, elle va être suggérée à côté de la vidéo sur la pâtisserie, parce que je sais que tu aimes bien regarder des vidéos de Yann et donc YouTube va te le recommander.
Ouais.
Donc si effectivement tu as au début beaucoup de suggestions à côté de vidéos bizarres, mais que ça représente quelques vues ou quelques personnes seulement, ça peut provenir de là dans les premières 48 heures. Si par contre ça représente un chiffre beaucoup plus important, là il y a eu une déconnexion.
Ah oui, mais en fait, alors, je crois avoir la réponse à ma question, finalement. C'est parce que comme il n'y a pas eu beaucoup de vues, le volume traité est assez faible. Et du coup, moi, je vois des choses que j'aurais pas dû voir sur un plus gros volume, en fait.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? En fait, il a fait des tests, il a essayé des trucs qui n'ont pas marché. Et comme j'ai tellement pas de volume, eh ben, je les vois parce que je suis dans mes stats et je les vois, en fait. Et en fait, c'est très souvent lié à une question de volume, j'ai l'impression, YouTube. Et j'en viens à ma deuxième question sur ce sujet-là. C'est un truc, encore une fois, qui vient d'une impression. Et c'est pour ça que je disais dans l'intro que moi, je tombe facilement dans les biais psychologiques. C'est-à-dire que je vois des liens de corrélation entre des trucs. Tu vois, là, typiquement, je me dis, ah, il m'a suggéré à côté de trucs qui n'ont rien à voir. Et en fait, il s'avère que c'est juste qu'il a fait son taf habituel, il a fait des tests, et que moi, j'ai le nez dessus, et que j'ai pas le nez sur la globalité du truc. Et pour le coup, autre chose que je me dis, c'est, bon, bah, si c'est une question de volume, peut-être qu'il y a une masse critique à atteindre, et ça c'est le truc qui toi, j'ai vu que ça t'énervait, c'est les petites chaînes qui disent, ouais, on n'est pas respecté par YouTube parce qu'on est des petites chaînes, et du coup, on n'est pas suggéré, on n'est pas recommandé, et il n'y a que les grosses chaînes qui bénéficient des leviers YouTube. Et moi, c'est un peu ce que je croyais il y a encore pas si longtemps. En fait, j'ai vraiment l'impression que au début, je galérais vraiment, et que après avoir atteint une certaine masse critique de gens qui me suivent plus ou moins, on en reparlera dans la rétention, eh bien là, pour le coup, ça y est, mes vidéos ont atteint un autre palier. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de masse critique?
Alors bon, déjà, il y a plein d'idées fausses qui circulent sur YouTube parce que quand on parle d'un algorithme, ça met beaucoup de mystère autour. On a l'impression qu'il y a des trucs un petit peu obscurs qui se passent derrière, que YouTube peut vraiment mettre des règles un peu vicieuses dedans pour favoriser certains et pas d'autres. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui font des analyses par corrélation et qui oublient qu'il n'y a pas forcément de causalité derrière. Donc ça, c'est une première chose. La question de la masse critique. Là, c'est pareil. C'est une interprétation de ma part basée sur, on va dire, sur l'expérience de tous les coachings de YouTubeurs que j'ai pu faire. C'est que, en fait, plus tu as une chaîne qui est suivie, quand tu as beaucoup d'abonnés ou quand tu as beaucoup de vues sur tes vidéos, plus, en fait, il y a de personnes qui ont déjà été en contact avec ton contenu, qui connaissent ton visage, qui connaissent ta façon d'expliquer les choses. Et moi, si j'arrivais il y a un an et demi et que je cherchais du contenu sur le marketing et que je tombais sur une de tes vidéos sans te connaître, j'aurais peut-être plus facilement cliqué sur la vidéo de quelqu'un d'autre que je connais déjà parce que je suis rassuré par le fait que je vais avoir une réponse intéressante. Donc en fait, mes clics seraient partis à l'autre personne et pas à toi. Après, peut-être qu'un jour, je suis tombé sur une de tes vidéos par hasard, j'ai apprécié le contenu, j'en ai regardé d'autres. Et aujourd'hui, avec la même requête ou la même suggestion de ta vidéo, je vais peut-être plus facilement cliquer sur la tienne parce que je te connais déjà. Et donc du coup, en fait, plus un YouTuber est connu et puis il a une grosse audience, plus il y a de gens qui l'ont déjà croisé, ont déjà croisé son contenu, et plus on va être rassuré, et plus on va facilement cliquer sur cette personne-là. Donc en fait, de fait, oui, il y a un effet de masse, parce que plus un YouTuber est gros, plus les gens sont susceptibles de cliquer dessus, donc les taux de clic vont être meilleurs. Mais c'est pas pour les raisons qu'on croit, c'est pas parce que YouTube veut favoriser les gros YouTubers ou autres, c'est même pas dans l'intérêt de YouTube, parce que YouTube a toujours intérêt à renouveler ses créateurs. Et je vais te faire un petit parallèle avec le milieu de l'entreprise, mais imagine demain, tu veux lancer une marque de cola. que tu vas en supermarché, tu veux lancer le Arcola et tu te bats comme un beau diable pour être chez Carrefour, tu vois, et tu arrives à mettre quelques bouteilles chez Carrefour, et bah, tu verras qu'il y a beaucoup moins de gens qui achètent ton Arcola que des gens qui achètent des autres marques très connues. Parce que on connaît pas le goût, on n'a pas testé, il y a la peur de l'inconnu.
Ouais.
Et il va te falloir longtemps avant que les personnes soient habituées à voir ton produit déjà, qu'ensuite ils puissent le considérer et qu'ensuite ils le goûtent et qu'ensuite ils prennent leurs habitudes dessus. Donc c'est logique que les petites chaînes mettent vraiment beaucoup de temps à démarrer, mais c'est pas du tout pour des questions d'algorithme. Et il y a des contre-exemples, il y a des petites chaînes qui ont énormément de vues dès la deuxième ou troisième vidéo, voire même la première. Les premières vidéos sont souvent un peu poussées sur YouTube. Donc moi, j'ai plutôt tendance même à penser l'inverse, c'est que au démarrage d'une chaîne, les deux, trois premières vidéos souvent sont mises en avant par YouTube parce que YouTube teste justement un peu plus pour voir si c'est pas un créateur avec beaucoup de potentiel et qu'il faudrait mettre en avant très rapidement.
Alors, c'est super intéressant ce que tu me dis et parce que en fait le framework R que je t'explique, pour moi il y a que acquisition, activation et on passe au R de rétention. Il y a que deux A pour moi. Mais en fait il y a des gens qui ont rebrandé le framework R et qui ont dit attendez, avant le A de acquisition il y a le A de awareness. Et alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, c'est juste du rebranding pour passer pour un créateur de concept. L'awareness, pour moi, est intégré à l'acquisition. Et en particulier parce qu'on ne peut pas vraiment le traquer. Mais là, ce que tu décris exactement, alors je suppose que tu as compris où je voulais en venir avec awareness, c'est justement ce que tu dis, c'est le Arcola dans le clair. Michel-Edouard, si tu nous écoutes, je réitère mon invitation pour passer dans le podcast. Le Arcola n'a pas zéro awareness en fait. Et du coup, il va se faire laminer forcément par ceux dont on connaît déjà l'existence, qu'on les voit passer en permanence.
Ouais.
Et finalement, cet effet d'inertie et de masse critique vient pas du tout de l'algo, mais vient donc de l'awareness. Awareness qui, voilà, je le répète, est une étape de l'acquisition. Donc c'est-à-dire que c'est long à mettre en place l'inertie et du coup, ça impacte le CTR. Forcément de savoir si on t'a déjà vu ou pas quoi.
Et pour pousser le parallèle d'ailleurs, t'as beaucoup de petits créateurs qui disent moi ce qui me manque c'est que mon contenu soit mis en avant. Si YouTube mettait vachement plus mon contenu en avant, j'aurais beaucoup plus de gens qui me suivraient, qui s'abonneraient, etc. Et c'est exactement la même chose avec le cola. Oui, le rayon Coca-Cola est énorme dans le supermarché par rapport au Arcola, mais si demain le rayon Arcola est aussi gros que le rayon Coca-Cola, bah, on va en vendre un tout petit peu plus du Arcola, mais on va être toujours très 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 loin des chiffres du Coca-Cola.
Ouais, okay.
Donc c'est que c'est pas ça le problème en fait, c'est pas forcément l'exposition. Et j'en profite pour du coup revenir sur YouTube. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font un petit peu l'erreur au démarrage, mais c'est normal, on expérimente, de justement penser que l'algorithme ne fonctionne pas bien et que c'est pas bien mettre en avant leur contenu et qui du coup vont acheter des vues, payer de la publicité ou même acheter des vues illégalement en se disant bah comme ça au moins les gens pourront découvrir mon contenu. Et j'ai toujours pas vu de cas où ça fonctionnait réellement pour développer une audience, en tout cas, de faire de la publicité ou d'acheter des vues.
Alors moi, je peux te dire, parce que j'ai essayé de faire du AdWords sur des vidéos en espérant que ça allait emballer l'algorithme. Et en fait, pas du tout. C'est pire que tout, puisque, ça c'est encore une interprétation, mais
oui.
Moi, avec AdWords, j'ai un taux de, sur la même vidéo, hein, j'ai un taux de clic à 2%, et sans AdWords, j'étais à 8 ou 9%. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je suis en train de me plomber mon algo. En fait, c'est pire que ce que j'espérais, puisque j'indique à YouTube que mon taux de clic est bas et que ma vidéo est donc pas hyper attrayante. Donc, je suis en train d'auto-déorganiquer ma vidéo, en très gros. Mais encore une fois, c'est une interprétation, tu vois. Encore une fois, je regarde le truc et je me dis, finalement, ça plombe mon algo.
Alors, ça plombe pas vraiment l'algo, parce que YouTube segmente les visionnages selon l'environnement de visionnage, et donc YouTube segmente le visionnage publicitaire à côté du visionnage organique. Et donc si ta vidéo en publicitaire ne marche pas bien, mais qu'en organique elle marche très bien, YouTube va continuer à proposer en organique. C'est là où on arrive dans la zone un petit peu floue, où effectivement YouTube dit « non, c'est tout à fait séparé, il n'y a aucune corrélation ». Mais on peut imaginer que dans un coin de leur tête, chez YouTube, ils se disent si là j'ai quelqu'un qui est prêt à payer de la pub pour mettre en avant ses vidéos, j'ai un petit peu intérêt à pas trop mettre en avant ses vidéos en organique pour qu'il paye, qu'il continue de payer de la pub. Mais là, on rentre dans des trucs où on fait des suppositions, etc. Et je pense que c'est voilà.
Ok, alors attends, est-ce que je comprenne bien, il y a deux niveaux. Enfin, il y a trois niveaux. Il y a le premier niveau, enfin même, il y a quatre niveaux. Attends.
Mais il y en a mille.
Il y a le premier niveau, il y a le mec qui se dit, ah, je vais payer pour emballer l'algo. OK. Deuxième niveau, il se dit, tiens, mon CTR est plus bas avec la pub, donc je suis en train de plomber l'algo. Et en fait, tout ça, c'est encore une fois que des interprétations et des estimations erronées, puisque là, tu me confirmes que les sources de trafic sont décorrélées. Donc, ça veut dire qu'en théorie, il n'y a aucun rapport entre le fait que mon CTR de AdWords était mauvais et que mon CTR de organique était différent. J'aurais pu, en théorie, avoir quand même l'algo qui s'emballait, indépendamment du fait que je faisais arriver du trafic. C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et du coup, tu as un dernier niveau, donc le niveau complotiste, qui dit « Ah non, mais attends, ça se trouve, en plus des guidelines officiels qui disent que les sources sont décorrélées, eh bien, en fait, ils pourraient quand même faire en sorte d'augmenter leurs revenus en trafiquant un petit peu cette partie-là et en, je sais pas, en estimant que le fait que quelqu'un ait payé de la pub sur un truc, ben, c'est un signal faible qui est utilisé pour faire baisser le truc organique. Ok, donc ça fait en gros quatre niveaux potentiels de compréhension du même phénomène en fait.
Ouais, c'est ça, c'est complexe, hein. C'est pour ça que c'est difficile. Dans le même genre, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, dès que vous sortez une vidéo, mettez-la sur tous vos réseaux sociaux pour qu'il y ait un maximum de gens qui tombent sur la vidéo.
Ah bah j'allais t'en parler justement.
Là aussi, YouTube va vraiment décorréler les sources de trafic. Et si vous avez plein de personnes qui viennent de Facebook pour regarder votre vidéo YouTube, ça veut pas dire pour YouTube que votre vidéo est extraordinaire et qu'elle va être montrée au monde entier. YouTube va expérimenter avec son algorithme, la montrer sur la page d'accueil de YouTube, la montrer en suggestion. Et si sur la page d'accueil et en suggestion ça marche pas, peu importe que ça cartonne sur Facebook, bah YouTube, par son expérience, bah, regarde et dit, bah non, les stats sont pas bonnes, on va arrêter de la mettre en avant sur les pages d'accueil et sur les suggestions. Et à l'inverse, vous pouvez avoir personne qui vient de vos réseaux sociaux, si ça marche très bien sur la plateforme YouTube, YouTube va le mettre en avant. Donc voilà, c'est vraiment décorrélé. Le seul avantage qu'on peut avoir à soit payer de la publicité AdWords, soit faire venir du monde depuis les réseaux sociaux, etc., c'est pour la preuve sociale, c'est tout simplement avoir une vidéo qui, oh là là, dis donc, il y a déjà 2000 personnes qui ont regardé cette vidéo, elle doit être intéressante, donc je vais un peu plus être incité à cliquer dessus que sur une vidéo qui a 20 vues. Mais les effets de la preuve sociale, surtout en 2020 maintenant, sont de moins en moins forts avec le temps. Enfin, on commence à avoir l'habitude maintenant de voir des vidéos pourries qui ont 3 millions de vues. Enfin, voilà, donc on est un peu moins impacté par la preuve sociale de nos jours, mais on ne peut pas nier qu'il y a un petit effet quand même de ce point de vue-là.
Ok, alors du coup, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est effectivement une suggestion qui passe dans les top 10 suggestions à chaque fois qu'on voit des conseils sur YouTube. C'est dès le début, dans les 48 premières heures, faites un maximum de bourrinage pour faire venir le maximum de trafic externe. Comme ça, l'algorithme va s'emballer. C'est quand même un truc qui est hyper courant comme conseil, hein. Donc là, tu dis que, en fait, comme les sources sont décorrélées, bah, c'est des conneries, en gros. Tu disais tout à l'heure que pendant les 48 premières heures, YouTube est très actif dans ses suggestions, dans ses recommandations, parce qu'il y a le bandeau nouveau. C'est ça ? C'est qu'il y a vraiment une différence entre les 48 heures premières et la suite, c'est ça ?
Oui, ah ouais, la majorité des vues se fait généralement au lancement d'une vidéo.
Donc du coup, il est super actif au niveau test. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on pourrait même estimer que si on envoie du trafic externe, ça brouille un peu notre compréhension de ce qui se passe sur ces 48 premières heures en plus.
Ouais, et je pense même que ça peut être à votre désavantage, parce que YouTube ne peut analyser que les données qui sont récoltées sur la plateforme YouTube. Donc imagine que, et c'est pas rare, hein, que tu aies une personne qui te suive sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter, et que dans les 48 premières heures, tu mets ta vidéo en public sur YouTube, et dans la foulée, tu l'intègres à un tweet et tu l'intègres à ta page Facebook. Une personne qui est dans ton audience et qui te suit partout, qui se trouve à ce moment-là sur Facebook, va regarder ta vidéo intégrée à Facebook,
ouais.
D'accord ? YouTube comprend que c'est une vue externe Facebook, mais ne sait pas que c'est cet utilisateur-là. Donc forcément, quand cet utilisateur va se connecter à son compte YouTube ensuite, YouTube va très certainement lui recommander ta vidéo.
Il va pas cliquer.
Mais cette personne l'ayant déjà vue ne va pas cliquer dessus.
Okay.
Et donc, ça va diminuer ton taux de clic. Donc, ça peut être un petit peu contre-productif de faire ça. Mais ça reste important de partager sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais j'ai plutôt tendance à dire, faites-le un peu plus tard, après les premières 48 heures. Certains le font une semaine après ou trois jours après. Une fois justement que YouTube aura accumulé suffisamment de données et que surtout ces utilisateurs-là que tu as sur toutes les plateformes seront déjà passés sur YouTube et auront déjà eu l'opportunité de cliquer dessus sur YouTube.
Mais ouais, ça a du sens ce que tu dis. Si j'ai vu un bout ou autre, bah effectivement, si on me le repropose après, et je clique pas dessus parce que je suis déjà au courant, l'effet de surprise n'est plus là, le CTR, enfin l'accroche fonctionne plus parce que j'ai déjà vu. Du coup, je clique pas, le CTR général va baisser, quoi. Ça paraît logique, effectivement.
Ouais, j'utilise en piqûre de rappel, moi, en fait.
Au bout de combien de temps tu préviens ta communauté que tu as fait une vidéo en externe?
Ça dépend, parce que je le fais très mal, mais j'ai des clients de coaching qui le font très bien et eux qui généralement le font dans l'email hebdomadaire ou bimensuel.
Ok.
Et sinon sur les réseaux sociaux, effectivement, au bout de quelques jours, c'est bien.
Ok, très bien. Parlons CTR très très rapidement. Question qu'on a dû te poser plein de fois et qui doit te faire rigoler. C'est quoi un bon CTR?
Eh ben, ça dépend. Zut, il y a pas de bon. Ça dépend vachement d'une thématique à l'autre. Il y a des thématiques où 10% c'est un CTR moyen, et il y en a d'autres où 4% c'est un super CTR. Un super taux de clic. Donc, c'est vraiment variable. Après, voilà, d'une manière générale, pour du contenu très standard, on va dire, en grosse moyenne, si vous arrivez à avoir un taux de clic qui dépasse les 5%, souvent, c'est pas mal. Voilà, pour donner vraiment, si on veut avoir un chiffre. Mais en fait, en réalité, un bon taux de clic, c'est un taux de clic qui est meilleur que celui des autres vidéos qui...
Oui, que la concurrence.
Ouais, voilà, ouais. Pas forcément. Et concurrence au sens large, c'est-à-dire...
Concurrence dans le pool, en fait. Dans le pool,
voilà,
de vidéos qui...
Des vidéos qui... Ouais. Répondent à l'attente du viewer à ce moment-là. Donc, ce que je dis toujours, c'est si vous êtes sur une niche très très précise, vous n'allez pas parler à beaucoup de personnes, mais ces personnes-là vont avoir des besoins très spécifiques. Donc, par exemple, toi, dans le marketing, il y a en particulier sur le type de marketing que tu fais, sur les startups et le framework art, il y en a pas énormément qui sont dans ce domaine-là. Donc, tu peux avec un taux de clic à 5-6%. Déjà avoir une vidéo qui est bien mise en avant par YouTube. À l'inverse, si tu faisais des vidéos divertissement où ton but c'est de faire rigoler des gens, t'es non seulement en concurrence avec tous ceux qui font des vidéos humoristiques, mais t'es aussi en concurrence avec ceux qui font des vidéos avec des belles images, avec ceux qui font des petits reportages, de la vulgarisation, tout ce qui tourne autour du divertissement sont, entre guillemets, de la compétition pour l'attention des personnes qui cherchent juste à se changer les idées. Et du coup, dans ces catégories-là, tu as intérêt à avoir des taux de clics stratosphériques pour être recommandé par YouTube.
Ouais.
Donc voilà, ça dépend de qui se bat un peu pour l'attention du viewer.
Ok. Autre information qui circule, pousser aux commentaires emballe l'algorithme. Donc pousser aux commentaires de différentes façons. Hein. Le meilleur moyen, a priori, ce serait de faire du drama, de faire du clivage, pour que les gens ils viennent t'insulter en commentaire Et si tu as plein de commentaires, du coup, l'algorithme va se dire « ça, c'est intéressant ». Et là, pour le coup, c'est une analogie avec les autres plateformes comme Facebook, Insta ou surtout LinkedIn, et qui nous fait dire que bah, si c'est comme ça sur LinkedIn, Facebook et Insta, il n'y a pas de raison que ce soit pas comme ça sur YouTube. Et du coup, on se dit bah, « effectivement, si on arrive à pousser aux commentaires, on va réussir à emballer l'algo ». Qu'est-ce que tu penses de ça?
Alors, a priori, mais je dis bien a priori, c'est une idée reçue. Comme on l'a vu, pour mettre en avant les vidéos, YouTube regarde surtout... En fait, YouTube essaie d'évaluer est-ce que... cette vidéo apporte du visionnage de qualité aux personnes qui la regardent. Est-ce que quelqu'un qui met un commentaire donne une preuve à YouTube que son visionnage était qualitatif? Pas nécessairement. Est-ce que quelqu'un qui met un petit pouce en l'air donne l'impression à YouTube que le visionnage était qualitatif? Peut-être un petit peu plus. Et YouTube ne dit pas autre chose, en fait. Une des personnes qui est dans l'équipe des recommandations YouTube, justement, qui a expliqué en vidéo très récemment que, justement, les signaux faibles que sont les likes, que sont les petites enquêtes de satisfaction qu'on peut avoir après les vidéos, peuvent compter pour la mise en avant du contenu parce que ça permet d'avoir un aspect un peu qualitatif sur la performance d'une vidéo. Mais elle n'a jamais cité les commentaires et ça me paraît pas étonnant parce que sur YouTube, tu as aussi des catégories de vidéos qui amènent les gens à mettre beaucoup de commentaires et puis d'autres catégories où en fait, on n'a pas forcément grand-chose à dire mais ça n'empêche pas qu'on a passé un bon moment et qu'on a apprécié la vidéo. Donc, si YouTube se mettait à mettre en avant des vidéos qui avaient beaucoup de commentaires, effectivement, ça serait une déviation, on va dire, du contenu vers du contenu clash, du contenu un peu plus trash. Et YouTube n'a pas intérêt à faire ça. Encore une fois, c'est souvent un problème de corrélation-causalité. Beaucoup de personnes se disent « Waouh, j'ai une vidéo qui a plein de commentaires et en plus, elle a plein de vues, elle est mise en avant par l'algo. Donc, c'est que ça doit être grâce aux commentaires. » En réalité, non, c'est qu'une vidéo qui fait du clash et où il y a plein de gens qui mettent du commentaire, c'est généralement une vidéo qui est intéressante parce que c'est une vidéo où il y avait une espèce de tension au début. Dans la proposition de la vidéo, dans la promesse de la vidéo, c'est que on vous promet qu'il va y avoir du débat, qu'il va y avoir de l'émotion. Et ça, ça donne envie de cliquer, ça donne envie d'aller voir, ça donne envie généralement de regarder la vidéo jusqu'au bout. Et c'est ces signaux-là qui font que la vidéo fonctionne, c'est pas le fait qu'il y ait les commentaires en fait, en réalité. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les autres plateformes, parce que c'est très vrai sur Facebook, sur LinkedIn, etc., quand plus il y a de commentaires, plus le contenu est mis en avant. Là aussi, pareil, je connais très peu les algorithmes des autres plateformes, mais mon interprétation est que le but de ces plateformes, c'est le même partout, c'est que les gens restent longtemps sur la plateforme. Et en fait, sur LinkedIn, par exemple, si beaucoup de personnes s'arrêtent sur ton poste pour écrire un commentaire, eh ben, l'affichage de ton poste va durer beaucoup plus longtemps que si les personnes ont juste fait que lire le poste et sont passées à autre chose. Donc, quand j'écris un commentaire, je vais rester peut-être une minute sur le poste plutôt que d'être resté 10 secondes en temps normal. Et ça, c'est un signal pour la plateforme qui se dit « Oh, les gens sont intéressés par ce poste vu qu'ils restent longtemps dessus, donc on va le mettre en avant ». Là où sur YouTube, quelque part, quand on va regarder une vidéo qui dure 12 minutes, j'en sais rien, je la regarde pendant 12 minutes, le commentaire, je vais le taper pendant que la vidéo est en cours de lecture, et en fait, on ne va pas rester plus longtemps sur la vidéo parce qu'on tape un commentaire. Et donc, ça ne va pas dans le même sens, en fait, vis-à-vis des algorithmes. La personne reste aussi longtemps, donc le commentaire a beaucoup moins de poids que sur un Facebook ou un LinkedIn. C'est mon interprétation, j'ai pas de preuves derrière ça, mais ça me paraît très logique.
Eh ben, écoute, illumination, effectivement, ça paraît tout à fait logique. Sur LinkedIn, ça s'appelle le dwell time, le temps que tu restes sur le post. Mais après, tu te barres, quoi. Alors que sur YouTube, il y a un critère pour ça. C'est le watch time, en fait. C'est aussi simple que ça.
C'est ça.
Donc, si tu as réussi à leur donner envie de regarder jusqu'au bout et tu les as engagés avec un truc, même si c'est un truc clash, bah, en fait, c'est ton niveau d'engagement qui va se refléter d'abord sur un CTR élevé et un watch time élevé. Et en fait, en bout de course, il y a des commentaires, mais en fait, c'est pas parce qu'il y a plein de commentaires que du coup l'algorithme s'emballe, c'est parce que l'algorithme s'est emballé qu'il y a plein de commentaires. Donc c'est super intéressant, effectivement. Ça remet en question à chaque fois nos croyances, c'est cool.
Et pendant qu'on fait le parallèle avec d'autres réseaux sociaux, il faut bien comprendre que YouTube est très différent de la majorité des autres réseaux sociaux, parce que la plupart des réseaux sociaux sont basés sur un système de feed, de flux d'informations que le réseau vous propose. Et donc vous, quand vous êtes consommateur sur ces plateformes, bah vous regardez tout ce qu'on vous propose petit à petit, et puis ensuite vous allez choisir ce qui... Par exemple, sur Facebook, les vidéos vont se lire automatiquement. Les posts, évidemment, vous allez les lire ou pas en passant dessus, mais c'est très difficile pour le réseau social de comprendre avec quoi vous interagissez. C'est pour ça qu'ils sont obligés de regarder le temps d'arrêt sur chaque, sur chaque post. Là où sur YouTube, en fait, cette information de quel est le contenu qui vous intéresse, elle se fait en amont, au moment où vous avez toutes les miniatures qui sont proposées et où vous allez choisir consciemment de cliquer sur l'une et pas sur les 15 autres qui sont proposées. Et là, vous avez déjà envoyé une information hyper importante à YouTube, à l'algorithme, qui dit « je préfère cette vidéo par rapport aux 12 autres qui est à côté ». Et à chaque fois que vous allez faire un nouveau clic sur YouTube, vous allez envoyer ce type d'information à la plateforme. Et du coup, YouTube capture beaucoup, beaucoup plus de données que les autres plateformes et peut ensuite mieux vous recommander du contenu. Pour aller encore plus loin, aujourd'hui TikTok, qui peut apparaître comme étant un feed, en réalité est un système qui est très similaire à YouTube, mais beaucoup plus performant, parce que comme les vidéos sont extrêmement courtes, on peut les swiper pour les éjecter, pour dire « je veux pas voir », et on peut au contraire regarder plusieurs fois une vidéo qui nous intéresse, et ça c'est toutes les 15 secondes que TikTok récupère des données là-dessus, donc TikTok en termes de recommandations est hyper puissant et capte beaucoup, beaucoup plus d'informations.
Okay, en 2 jours, TikTok, il t'a cerné, alors que YouTube met plus de temps. Quoi.
C'est ça, YouTube va peut-être mettre une semaine à te cerner, TikTok, en 3 heures, ils t'ont cerné, et Facebook, après 4 ans, ils n'ont toujours pas cerné. Quoi. En gros. Et le dernier point pour comparer ces plateformes, c'est que si vous êtes en train de réfléchir à sur quelle plateforme vous avez publié vos vidéos, il faut comprendre que sur Facebook, LinkedIn, etc., la portée est très importante dans les premières heures parce que justement, c'est un système de flux, donc ça va apparaître sur beaucoup de flux des audiences qui vous suivent. Mais après, votre vidéo, elle est plus visible nulle part en fait. Elle est complètement disparue parce qu'il n'y a pas de recherche, parce qu'il n'y a pas de suggestion de contenu ancien. Tout est de la prime à la nouveauté en fait. Là où sur YouTube, vos vidéos peuvent exister pendant très longtemps et pendant des années, vous ramenez encore des nouvelles personnes qui vont découvrir votre marque, votre entreprise, etc. Et c'est vraiment sur cette longue traîne que YouTube... est hyper intéressante, mais il ne faut pas s'attendre dans les premières heures, quand vous publiez votre première vidéo YouTube, à avoir 400 personnes qui tombent dessus.
Je voulais te parler d'une stratégie, pour finir avec l'acquisition, la stratégie de Victor Ferry, le mec qui parle de rhétorique sur YouTube, qui publie une vidéo par semaine, et qui parle toujours d'un sujet plus ou moins d'actualité, il essaie toujours de le relier à une trend. Donc il va prendre Didier Raoult, machin. Et il essaie toujours de choper un truc mainstream. Et après, une fois qu'il est parti dans son sujet, il le raccroche rapidement à la rhétorique. Et du coup, il y a un peu cet effet du « je tape large pour faire venir ». Et une fois que les gens sont dedans, eh bien, je filtre avec potentiellement ben, « si ça ne t'intéresse pas, tu peux t'en aller ». Alors, du coup, moi, je suis assez admiratif de cette technique-là parce que c'est un équilibre, parce qu'il faut pouvoir faire venir des gens qui ne sont pas du tout intéressés par la rhétorique. Et il faut pouvoir, donc, dans un premier temps, virer ceux qui ne vont pas s'y intéresser, sans pour autant faire baisser trop son watch time. Il faut bien sûr, ceux qui sont sensibles à ça, les accrocher, mais ça va être simple. En leur prenant un truc d'actualité, forcément, ça va les intéresser. Mais il y a une zone un peu plus floue qui est d'arriver à intéresser les gens sur la thématique et donc de transformer le mainstream en quelqu'un qui serait intéressé par le sujet et qui permet donc de faire passer le seuil du watch time au-dessus de ce qui est acceptable pour l'algorithme pour continuer à être recommandé. Donc, est-ce que tu peux me donner ton avis sur cette stratégie et de quelle façon on peut essayer de le répliquer sans tomber dans des écueils du genre je fais mainstream mais tout le monde s'en fout puisque je suis trop technique et du coup les gens se sont barrés, mon watch time est catastrophique.
Ouais, c'est une stratégie qui est hyper intéressante et que Victor Ferry maîtrise très très bien, comme d'autres personnes, comme un créatif par exemple, maîtrise très bien aussi ce genre de méthode. Et en fait, tout est basé sur la découvrabilité du contenu. Démarrer une chaîne sur la rhétorique, c'est couillu. Fallait oser, on va dire, parce qu'on est sur YouTube, on imagine quand même que la plupart des gens sont là pour se divertir, etc. Et le tour de force qu'il arrive à faire, en fait, avec ses vidéos, c'est qu'il arrive à intéresser des nouvelles personnes à la rhétorique, alors qu'à la base, elles n'étaient pas du tout intéressées par ça. Et donc, en fait, on est totalement à l'opposé d'une chaîne qui est orientée sur la recherche, où on se dit, nous, ce qu'on veut, c'est que tous les gens qui cherchent des informations sur la rhétorique tombent sur nos vidéos.
Ouais.
Parce que si Victor Ferry avait fait ça, sa chaîne YouTube, aujourd'hui, elle serait à 2000 abonnés ou 3000 abonnés.
Ouais.
Parce qu'il y a très peu de gens qui cherchent des infos sur la rhétorique sur YouTube. Et en fait, la grosse majorité de l'audience, c'est cette audience périphérique de personnes qui ne sont pas encore sensibilisées à cette thématique, mais qui sont ouverts à l'idée, et si on les intéresse par une porte d'entrée, peuvent devenir vraiment intéressés à votre sujet et se former grâce à vous. Et ça, c'est une audience qui est super intéressante à toucher. Et pour ça, du coup, effectivement, d'utiliser une tendance ou d'utiliser une actualité, comme le fait beaucoup Victor Ferry, c'est un très bon moyen parce que quand il y a une actualité, évidemment, ça tourne partout. On est attiré par l'actualité et on a envie de connaître, d'avoir des opinions, de se forger notre opinion, que ce soit pour ensuite aller discuter en famille ou autre. Enfin, voilà, on a aussi nous-mêmes un intérêt personnel à aller écouter les opinions d'un philosophe, d'un rhétoricien, d'un mathématicien sur des sujets de société, parce qu'ensuite, on sait que ça va nous forger notre opinion pour pouvoir être plus intéressant dans les discussions de famille, dans les discussions avec les copains, etc. Donc, ils utilisent un petit peu ce ressort-là pour intéresser les personnes et rendre leur contenu découvrable, j'ai envie de dire. Et ensuite, une fois qu'on a vu une ou deux de leurs vidéos, effectivement, certaines personnes vont dire « Ouh là là, c'est beaucoup trop technique ou compliqué pour moi. » Ces personnes vont pas regarder ces vidéos. Mais d'autres personnes qui vont s'y intéresser vont se dire « Ouais, mais c'est génial comme point de vue, comme angle, comme angle d'attaque. » Et vont regarder les vidéos jusqu'au bout. Et en fait, encore une fois, YouTube va segmenter un petit peu et va vite comprendre que « Ah bah tiens, finalement, les vidéos de Victor Ferry, les 14-18, ils accrochent pas trop. » Par contre, les 25-40, apparemment, ils ont l'air d'accrocher. Donc, on va les montrer vachement plus à des gens qui ont entre 25 et 40 ans. Mais les 14-18, on va leur montrer autre chose, quoi. Et donc, voilà, YouTube se rend très vite compte du type d'audience qui apprécie ce contenu et du type d'audience qui n'apprécie pas et va le pousser auprès des gens qui l'apprécient. Donc, encore une fois, par capillarité, par similitude entre le comportement des viewers, YouTube va trouver une audience pour ce type de chaîne.
Ok. On est évidemment très proche des algos de Facebook Ads, pour le coup, qui va tout à fait comprendre qui ressemble à quel autre avec des indicateurs. C'est-à-dire que, en très gros, on met un pixel sur un site internet et en fonction de quelques événements, du genre ajout au panier, achat, truc comme ça, et ben Facebook est capable... avec beaucoup de volume, hein, bien sûr, d'aller retrouver des gens qui ressemblent à ceux qui ont effectué telle action sur le site. Il faut voir un peu YouTube et la recommandation, la suggestion et tout ça, comme les lookalikes de Facebook Ads, quoi, en gros.
Ouais, c'est ça.
Ok, très bien. Passons au A de activation. Activation, on a dit tout à l'heure, c'est quand une personne se rend compte de la valeur ajoutée d'un produit, donc d'une chaîne YouTube, et il se dit, je veux être mis au courant. Et actuellement, du coup, le meilleur moyen qu'on a de traquer potentiellement les gens qui sont activés, c'est le bouton abonnement. Est-ce qu'il y a des astuces, des guidelines pour pousser aux gens à cliquer sur le bouton? Est-ce qu'il faut le répéter tout le temps? Qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter son taux d'activation et son nombre d'abonnés?
Alors c'est vachement intéressant comme sujet parce que c'est un sujet qui est mouvant chez YouTube. Effectivement, il y a quelques années, la seule activation possible, c'était le bouton abonné. Si tu t'abonnais pas à une chaîne, YouTube n'allait pas te montrer le contenu parce que on allait voir les vidéos dans notre flux d'abonnement. C'était la page d'accueil par défaut, c'est notre flux d'abonnement et on ne voyait que ça. Depuis, les algorithmes de recommandation de YouTube ont énormément évolué, ils sont devenus excellents et une majorité d'utilisateurs aujourd'hui ne va plus voir son flux d'abonnement. Et donc, il y a beaucoup de gens, puis il y a aussi tellement de personnes qui sont abonnées à 150 ou 200 chaînes YouTube qu'évidemment, ils vont pas voir toutes les vidéos de ces chaînes-là. Et donc, YouTube a très vite compris qu'on pouvait être abonné à des chaînes, mais plus être intéressé par le contenu, et qu'à l'inverse, on pouvait suivre des chaînes sans y être abonné et être hyper intéressé par le contenu de ces chaînes-là. Donc, YouTube est en train d'évoluer de ce côté-là, et l'indicateur du nombre d'abonnements n'est plus un indicateur hyper pertinent aujourd'hui. Même si ça fait plaisir aux créateurs de contenu, même si beaucoup de marques utilisent encore ça comme jauge pour essayer d'estimer de la crédibilité d'une chaîne, il y a aujourd'hui d'autres indicateurs comme le nombre moyen de vues sur les dernières vidéos, par exemple, qui sont beaucoup plus intéressants que le nombre d'abonnés.
Mais alors, tu vois, du coup, le sujet de l'activation est hyper lié au sujet rétention. Parce que pour moi, l'activation est quelque chose qui est un peu en one shot, tu vois. C'est-à-dire que tu fais une bonne première impression. Et alors, après, ça peut se faire en une seule fois. Ça peut se faire, genre, il regarde une de tes vidéos. Il se dit, c'est super intéressant. Il regarde une autre vidéo qui ressemble, tu vois. Et en fait, il suit le flux que lui propose l'algo. Et voilà, au bout de trois vidéos, bon, il peut mettre un signal abonnement ou pas. Comment YouTube, il peut estimer que quelqu'un est activé et que du coup, il va lui montrer la prochaine vidéo en dehors du fait qu'il soit abonné ou pas. C'est-à-dire que tu fais une vidéo cette semaine, t'en fais une autre la semaine prochaine. Je suppose que du coup, YouTube va remontrer ta prochaine vidéo à quelqu'un qu'il a estimé comme potentiellement activé, tu vois. Donc, quels seraient les critères qui feraient que du coup, il se dit celui-là, il a été accroché par sa première expérience et du coup, je vais lui remontrer.
Quand on s'abonne à une chaîne, on dit à YouTube, je veux voir du contenu de cette chaîne. C'est-à-dire, même si tu comptais pas m'en recommander, je te demande de me recommander du contenu de cette chaîne. Donc, ça me paraîtrait totalement illogique que YouTube ne pousse pas plus le contenu de cette chaîne quand on s'est abonné dessus. Par contre, si au bout de 6 mois, YouTube se rend compte que, bah oui, les premiers mois, on regardait toutes les nouvelles vidéos qui sortaient, puis maintenant, on les regarde plus. À ce moment-là, ils vont arrêter de nous les pousser. Sur la partie activation, je suis tout à fait d'accord avec toi en fait sur le fait que ce soit d'arriver à faire en sorte que les gens voient plusieurs vidéos. Et c'est un des leviers les plus puissants qu'on a nous en tant que créateurs YouTube, c'est d'envoyer les gens sciemment vers une autre vidéo à la fin de notre vidéo. On va faire ça par les écrans de fin en particulier. Et plutôt que de finir notre vidéo en disant bon bah voilà c'est tout pour aujourd'hui, salut à la prochaine, comprendre qu'en fait le viewer il n'est pas du tout en fin de visionnage et qu'en fait bah, il a envie de regarder d'autres choses derrière et qu'on lui recommande une autre de nos vidéos pour l'emmener en voir une deuxième, une troisième, une quatrième. Ça va avoir quatre avantages, c'est un point vraiment essentiel ça. Premier avantage c'est que ça va augmenter les vues sur la vidéo qu'on recommande. Deuxième avantage, on augmente la session, donc on a un petit bonus de watch time sur notre vidéo actuelle. Troisième avantage, c'est que la personne aura vu plusieurs vidéos d'affilée, donc elle a plus de chances de vouloir s'abonner. Et quatrième avantage, c'est que comme la personne aura vu plusieurs de nos vidéos, YouTube va en recommander encore plus de notre chaîne dans les jours qui suivent. Donc en fait, c'est très puissant comme outil, cet appel à l'action à la fin de vidéo. Et c'est pour ça que quand on parle d'activation, c'est vraiment un truc hyper important en fait, parce que c'est vraiment ça qui va faire qu'on transforme un viewer occasionnel en viewer récurrent petit à petit. Et c'est là où beaucoup de YouTubeurs font l'erreur, beaucoup de personnes qui démarrent sur YouTube font l'erreur, de se dire mon activation c'est de demander aux gens de s'abonner, alors que la vraie activation c'est de demander aux gens d'aller voir d'autres
Oui, bah
vidéos.
oui.
Et après ils s'abonneront.
Oui, bah c'est ça. Et en fait, c'est finalement le défaut de l'écosystème growth qui est de vouloir optimiser des taux de passage. Et en fait, on se dit, voilà, on va dire à quelqu'un qui est dans l'écosystème growth classique et qui voit une chaîne YouTube, il se dit, voilà, mon activation, c'est le nombre d'abonnés. Il faut que j'optimise un maximum ce nombre d'abonnés. Sauf que tu peux toujours augmenter un taux. C'est-à-dire qu'augmenter le nombre de gens qui vont s'abonner, ça, c'est tout, y a toujours des moyens pour le faire. Mais est-ce que c'est des gens qui vont par la suite être des bonnes personnes au niveau rétention? Est-ce que c'est des gens qui sont vraiment activés, en fait? Parce que, en fait, il n'y a rien de pire que faire rentrer des faux activés dans ta boucle, qui vont du coup après plomber ton algo.
C'est ça.
Puisque du coup, ils vont voir tes vidéos passer et ils vont finalement pas être spécialement intéressés. Et ça rejoint on va dire, une petite expérience de vie que j'ai vécue, que j'ai fait de la visibilité sur LinkedIn pour ma chaîne YouTube. Et j'ai fait un truc avec un lead magnet, un PDF, un truc classique. Et j'ai mis un lien pour vous abonner, cliquez ici. Et j'ai reçu plein de messages de gens de la growth qui m'ont dit, mais pourquoi tu as mis le lien de ta chaîne et t'as pas mis le lien slash bidule truc qui fait que quand tu cliques dessus, les gens s'abonnent automatiquement. Et en fait, c'est exactement pour cette raison. C'est-à-dire que je ne veux pas augmenter artificiellement un taux d'activation qui va faire que l'algo de YouTube derrière va montrer à des gens qui sont pas spécialement intéressés juste parce qu'ils ont cliqué sur mon truc et je les ai bien eus,
Ouais,
ils se sont fait abonner de force, quoi. C'est vraiment la grosse différence entre essayer de jouer le jeu et comprendre les mécaniques qui sont dans notre intérêt et essayer de faire grossir des chiffres bêtement sans avoir la stratégie transverse sur le framework. Alors, et c'est valable sur YouTube, mais c'est valable partout. Si on peut toujours faire une tonne d'acquisition, si les gens ne sont pas activés derrière, ça sert à rien. On peut toujours faire une tonne d'activation. S'il n'y a pas de rétention derrière, ça sert à rien.
ouais.
Donc c'est vraiment le point que je voulais reprendre et je vois que tu es d'accord avec moi. Donc,
Je pense pas qu'il y ait un handicap à avoir des gens abonnés à notre chaîne qui sont en réalité pas vraiment intéressés par notre contenu. C'est juste que YouTube va très vite les mettre de côté comme s'ils n'étaient pas abonnés en fait. Mais je pense pas qu'il y ait un handicap particulier du moment que on a une audience fidèle qui nous suit. Mais effectivement, le truc, c'est qu'on regarde les métriques de travers, quoi. On est encore aujourd'hui à penser que le potentiel d'une chaîne YouTube et l'intérêt d'une chaîne YouTube, c'est d'avoir beaucoup d'abonnés, ce qui est totalement faux. Je connais beaucoup de chaînes YouTube qui ont 1 million d'abonnés, mais qui ont 2 000 ou 3 000 vues sur chaque nouvelle vidéo. Et moi, je préfère largement voir une chaîne YouTube qui a 10 000 abonnés, mais qui fait 20 000 vues par vidéo. Et il y en a. Et c'est ces chaînes-là qui explosent aujourd'hui. C'est pas les chaînes qui ont 1 million d'abonnés. Donc voilà, le nombre d'abonnés aujourd'hui, c'est vanity metric. Les vrais indicateurs, c'est le nombre de vues moyen que vous avez sur vos vidéos, la taille de votre communauté, le nombre de viewers uniques, le nombre de viewers récurrents qu'on va avoir, c'est ça les vrais indicateurs.
Ok. Alors du coup, embrayons sur la rétention. C'est sûrement pas par les notifications ou par le fait que quelqu'un est abonné. Moi, par exemple, je sais que sans la cloche, j'aurais pas de notification et que même avec les notifications, je vais pas forcément les regarder. Donc c'est-à-dire que stat affreuse que je peux vous partager sur une vidéo que j'ai faite, c'était 8% des gens abonnés ont la cloche et dans les 8%, il y en a que 1,2% qui ont vu la vidéo que je venais de sortir. Donc, il n'y a que 1,2% de mes abonnés qui ont été au courant via la notification, ce qui représentait 45 personnes. Donc, comment ça fonctionne la rétention sur YouTube? Est-ce que tu peux nous parler donc de ce fameux moi glissant que j'ai vu dans une de tes vidéos?
Alors déjà, on va bien définir rétention parce qu'en fait, il y a le rétention du framework R et sur YouTube, rétention, ça veut dire autre chose. La rétention, c'est la rétention d'audience qui est en fait le pourcentage de vidéos regardées sur une vidéo particulière. Donc pour ça, on va revenir sur les types de contenus dont on parlait au début du podcast et on va revenir en particulier sur le contenu communautaire et où là, en fait, les personnes vont venir... Pour avoir des personnes qui suivent votre contenu de façon régulière, il faut que vous leur apportiez de la valeur ajoutée régulièrement, évidemment. Et en plus de ça, il faut que ce soit une valeur ajoutée qui périme pas dans le temps. C'est-à-dire que si vous avez le même type d'information que vous répétez de façon différente dans chacune de vos vidéos, il y a un moment où ça va épuiser les personnes. En fait, les personnes vont dire, OK, c'est bon, j'ai compris, je vais arrêter de suivre cette chaîne parce que régulièrement, on me redit tout le temps la même chose. Et cet épuisement, en fait, c'est difficile pour beaucoup de créateurs de le comprendre. Parce qu'on va se dire, mais je comprends pas, il y a 2 ans, je faisais ce genre de vidéo, ça marchait bien. Aujourd'hui, je le fais, ça marche plus. Et il y a de moins en moins de gens qui regardent mes vidéos. Mais en fait, c'est un épuisement qu'on constate tous les jours quand on regarde les séries télé, par exemple. Les séries télé, à quelques exceptions près, elles sont pas éternelles. Tu prends Friends, tu prends Big Bang Theory, des séries comme ça. Bah, au bout d'un certain temps, les audiences rediminuent un petit peu. l'intérêt s'efface et ça a beau être toujours les mêmes acteurs, ça va être toujours aussi intéressant. Il y a un moment, ça a un goût de réchauffer, quoi. Et donc, bah, ils ont l'intelligence à la télé ou sur Netflix maintenant de dire, bah, après la cinquième saison, on va arrêter et on va passer à autre chose. Et pourquoi sur YouTube ce serait différent et pourquoi au bout de 8 ans, 10 ans, les gens devraient être toujours autant intéressés si on présente toujours les choses de la même manière? Donc, là, je parle vraiment sur du très long terme, mais sur du très long terme, il y a des moments où on a besoin de prendre des virages avec notre audience pour les emmener un petit peu dans un parcours un petit peu différent. Maintenant, sur une rétention plus moyen terme, on va dire, donc sur une question de mois, comment on fait que les personnes restent de mois en mois, on est vraiment plus sur du contenu communautaire. Et contenu communautaire, ça veut dire à la fois du contenu qui va être très, très spécifique pour une audience cible très précise, où les gens vont se reconnaître dedans, ils vont dire « Oh là là, ce contenu, j'ai l'impression qu'il est fait pour moi, ça me parle au plus profond de moi. » Et souvent, c'est du contenu qui va être tourné non pas autour d'une information précise ou d'une promesse d'information précise, mais souvent, ça va être autour d'un credo ou d'un « why », comme dirait Simon Sinek, où en fait, les communautés les plus fortes, que ce soit en ligne ou ailleurs d'ailleurs, se retrouvent non pas sur des centres d'intérêt, mais se retrouvent sur des croyances communes en réalité.
Donc c'est du branding en fait.
C'est un élément de branding, ouais, c'est un élément de branding. Mais il faut l'incarner dans ces vidéos. C'est-à-dire que moi je peux faire une vidéo sur le coin des YouTubeurs où je vais dire les 5 nouvelles astuces pour avoir plus de vues sur ces vidéos. Et je peux faire ces vidéos, je peux en faire 4 par an des vidéos comme ça si je veux. Mais au bout d'un moment, les gens vont s'épuiser, ils vont dire ok, on les a vues, ces astuces, on les connaît. Parce que je les formulerai différemment à chaque fois. Si par contre on fait des nouvelles vidéos où je sais pas, moi ma croyance sur le coin des youtubeurs c'est que en fait n'importe qui a une passion peut s'épanouir sur YouTube en trouvant une communauté, en trouvant des personnes qui partagent la même passion, et en plus de ça on peut finir par en vivre et par vivre de son audience et du coup dédier un temps maximum à sa passion. Et si chacune de mes vidéos se fait par ce filtre là, c'est sans fin. Après on a des sujets de vidéos sans fin autour de cette croyance là en fait, et toutes les personnes qui se retrouvent dans cette croyance tous les mois vont avoir du contenu tout neuf, tout frais, parce qu'on peut raconter des histoires de créateurs YouTube et chaque nouvelle histoire nous apprend des nouvelles choses, un petit peu ce que je fais sur le podcast des créateurs vidéo. On peut utiliser le filtre aussi des 5 astuces pour développer ses vues, mais en disant comment partager sa passion et faire en sorte qu'il y ait du monde qui les voit, enfin tu vois. On peut en fait créer du contenu infini comme ça.
En fait, c'est juste comprendre son audience cible, encore une fois, et du coup, lui proposer du contenu connexe à tous ses centres d'intérêt, en fait, qui rassemblent, en fait. C'est ça, quoi.
C'est ça. Et vraiment comprendre les motivations profondes des gens qui nous suivent. Moi, je sais que les motivations profondes des gens qui suivent le coin des youtubeurs, c'est pas d'avoir plus de vues ou plus d'abonnés. C'est pas une motivation profonde, ça, c'est un indicateur, c'est un objectif.
Ils veulent partager leur passion, c'est ça ?
Ils veulent trouver des personnes avec qui partager leur passion, parce que c'est pas facile dans la vie de tous les jours de trouver 1000 personnes qui sont passionnées de trains électriques ou qui sont passionnées de, il y a des passions très très précises comme ça. Et en ligne, c'est très facile de trouver des gens comme ça en fait. Mmh. Et ça, c'est un élément motivateur énorme. Il y a aussi le fait d'avoir un impact sur la vie des gens. C'est une motivation très profonde. La première fois où tu reçois un email d'une personne qui te dit waouh, ce que tu as dit dans cette vidéo, ça m'a complètement chamboulé. J'ai décidé ça dépend des personnes. T'en as qui vont dire j'ai décidé de quitter mon job, ou t'as d'autres personnes qui vont dire j'ai essayé de me remettre à la photo et grâce à toi, je ressors, je revis, c'est génial. Enfin, tu vois, quand il y a quelqu'un qui te envoie un message comme ça, tu te dis waouh, mais en fait, ça mérite toutes les centaines d'heures passées à faire ces vidéos parce que j'ai eu un impact sur la vie de quelqu'un, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est une motivation profonde, je pense.
Alors, est-ce que tu penses que c'est un travail préliminaire avant de se lancer, ou c'est quelque chose que tu découvres au fur et à mesure? Parce qu'en fait, en théorie, dans le marketing, tu es censé faire ce travail préliminaire en amont.
Ouais. Mais là, pour le coup, ça dépend du type de créateur. C'est-à-dire que si c'est un créateur passionné, ça se fait un petit peu par tâtonnement, parce qu'en fait, YouTube, c'est un peu la plateforme de la transparence. C'est-à-dire que si vous essayez d'être faux, ça va se voir. Si vous jouez à un jeu d'acteur, ça va se voir et ça va pas fonctionner. Donc on est obligé de mettre de notre personnalité à un moment ou un autre dans nos vidéos. Et donc comme on met de nos personnalités dans la vidéo, il faut que les valeurs qu'on essaie de défendre et qui du coup vont être les valeurs de notre audience cible, faut aussi que ce soit nos valeurs. Et parfois on met du temps à tâtonner parce qu'on ne connaît pas bien nos valeurs en fait. Il y a aussi de ça. Il y a même des créateurs qui d'ailleurs arrivent à toucher une certaine valeur, enfin des valeurs chez leur audience, pour se rendre compte au bout d'un moment que mince, en fait, moi, c'est pas les miennes, donc à un moment, j'ai besoin de changer de contenu et de prendre un virage. Donc, ce tâtonnement, il se fait chez les YouTubeurs individuels, les personnes qui démarrent leur chaîne YouTube par passion. Mais par contre, une entreprise, généralement...
Bah oui, c'est censé avoir réfléchi là-dessus avant.
Ouais. Et surtout, l'entreprise, elle a quand même un objectif derrière. À la fin, c'est de vendre des produits ou trouver des collaborateurs ou trouver des prospects. Et donc, en fait, le chemin, il est assez clairement tracé. Ça ne veut pas dire qu'on sache tout de suite quelles sont les valeurs émotionnelles qu'on va essayer de toucher chez l'audience. Hein. Des fois, on n'a pas remonté le millefeuille suffisamment haut, des fois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même en général qu'un ou deux chemins possibles pour remonter ce millefeuille et il n'y a pas trop besoin de tâtonner. Non,
remonter ce millefeuille, je ne connaissais pas cette expression.
Moi non plus, j'ai inventé comme ça.
Ok, très bien. Mais alors du coup, tu ne m'as pas répondu. C'est quoi cette histoire de mois glissant?
YouTube, ils nous disent maintenant, dans les analytics, très prochainement, vous allez avoir un nouvel indicateur qui va vous permettre de voir, en gros, chaque mois, combien de nouveaux viewers vous avez gagné et combien de viewers récurrents vous avez. Et en fait, ça va nous permettre tout simplement de savoir, tiens, le mois dernier, grâce à cette vidéo, par exemple, j'ai pu attirer 45 nouveaux viewers ou 4000 nouveaux viewers qui sont des personnes qui n'étaient pas au contact de vos contenus dans les mois précédents. Et à l'inverse, vous avez tant de viewers récurrents, c'est-à-dire c'est les personnes qui, le mois dernier, ont déjà regardé au moins une de vos vidéos. Et en fait, c'est comme ça que YouTube fait la distinction entre ce qu'ils appellent un viewer récurrent d'un nouveau viewer. Et en gros, ce que sous-entend YouTube, c'est plus vous avez de viewers récurrents, plus votre chaîne sera poussée et mise en avant, parce qu'on considérera que vous arrivez à satisfaire une audience de façon régulière. Et la façon de déterminer si une personne est viewer récurrent, l'indicateur pour YouTube, c'est est-ce que cette personne qui regarde votre vidéo aujourd'hui a regardé une de vos vidéos dans le mois précédent. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait, l'objectif qu'on va essayer d'avoir maintenant sur notre chaîne YouTube, c'est est-ce que j'arrive tous les mois à au moins proposer une vidéo que tout le monde aura vue, quoi. Donc soit on a une vidéo très grand public chaque mois qui intéresse notre audience, évidemment, soit si on a différents formats et on sait qu'on a des audiences un peu différentes sur les différents formats, comment je fais en sorte que chacun de ces formats, je puisse le publier au moins chaque mois. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ce time frame d'un mois.
Ah bah oui,
ils auraient pu très bien dire ça peut être une semaine, ils auraient pas très bien dire ça peut être un jour. À mon avis, sur TikTok, par exemple, le time frame, il est très différent. Pour avoir un viewer récurrent et se dire on va pousser ce contenu auprès de ce viewer, à mon avis, c'est plutôt une semaine, quoi. Sur YouTube, c'est un mois, et un mois, ça veut dire que ça laisse du temps quand même aux créateurs de contenu de se dire bah, je peux créer 2-3 vidéos par mois et quand même pouvoir être mis en avant par l'algorithme sans problème. Donc, je trouve que c'est raisonnable.
Ok, donc ça répond à la question de la fréquence qu'on a souvent. Et alors, pour moi, cette information, c'est de l'or. Hein. Franchement,
ah oui, carrément,
c'est la meilleure information que sur l'algo de YouTube que j'ai eue depuis, je sais pas, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. C'est peut-être même la meilleure tout court. Hein, parce que là, on comprend vraiment où ils vont, en fait.
Ouais.
C'est vraiment top. Ok, super. Referral, comment on fait pour faire en sorte que des gens vont... en parler aux autres, le partager, est-ce que tu as des idées là-dessus?
C'est un peu le talon d'Achille de YouTube, on va dire. Au niveau individuel, YouTube n'est pas une plateforme où on va facilement partager des vidéos et partager des contenus par rapport à un Facebook, par exemple. On peut très facilement partager juste quand on se dit, bah, tiens, ah, je me reconnais dans cette vidéo ou dans ces valeurs-là, hop, je la partage sur mon mur très rapidement, très facilement. Sur YouTube, c'est pas le cas. En fait, c'est un semi-réseau social parce qu'on est au contact avec plein d'autres personnes, mais on n'a pas notre cercle d'amis ou de contacts sur YouTube. Donc, ils ont essayé à un moment de mettre en place une messagerie, de mettre en place des petits cercles, etc. Mais ça n'a pas pris et ils ont arrêté l'option. Donc, la partie partage, elle est assez limitée et souvent les partages vont se faire sur d'autres plateformes, en fait. On va partager une vidéo YouTube sur son Facebook, sur son Twitter. Et même là, il y a peu de personnes qui vont cliquer dessus et revenir sur YouTube, donc c'est pas très puissant.
Mais est-ce qu'on peut essayer d'inciter un minimum en disant, en incentivant, comme on dit, le bouche à oreille d'une façon ou d'une autre?
On peut, après, je sais pas si ça a vraiment un intérêt, parce qu'en réalité, toute la puissance de YouTube se place plutôt dans la partie recommandation de contenu, recommandation de vidéos.
Ouais.
Et moi, je conseille toujours à la fin d'une vidéo de donner un seul appel à l'action et pas 5 ou 6 en disant likez, abonnez-vous, mettez un commentaire, partagez la vidéo, etc. Et pour moi, l'appel à l'action, partagez la vidéo, il est faible. C'est-à-dire qu'au mieux, on va peut-être avoir une dizaine de personnes qui vont le partager à 3 autres personnes sur une plateforme externe. Donc, l'intérêt, il est quand même assez limité. Donc, je préférerais toujours recommander d'aller voir une autre vidéo plutôt que de demander de partager la vidéo. Donc, c'est pour ça que c'est pas hyper puissant.
On sacrifie le referral sur l'autel de l'activation
c'est
et
ça,
de l'attention.
Il y a un peu de ça. Ouais.
Ok, très bien. Pour finir, est-ce que tu as des exemples de chaînes YouTube qui ont une stratégie singulière que tu trouves intéressante ?
Oui, c'est alors il y en a plein des exemples de marques, mais il y en a un qui m'a forcément marqué. C'est une marque de Blender. C'est quasiment les tout premiers à avoir explosé sur YouTube. Et en fait, on pourrait imaginer qu'ils utilisent une méthode comme la plupart des entreprises où ils vont mettre des spots publicitaires, où ils vont peut-être mettre des tests en expliquant pourquoi leur Blender il est super solide, pourquoi le Blender est le meilleur.
Ouais.
Et en fait, au lieu de ça, ils se sont dit non, ils sont partis dans un gros délire. Ils se sont dit on va créer une émission. On va la rendre un peu kitsch, donc c'est-à-dire c'est un présentateur qui doit être assez âgé, la soixantaine, qui met une blouse, qui se fait passer pour une espèce de scientifique raté, quoi, qui parle comme un speaker des années 80. Même l'image, ils l'ont un peu dégradée, donc ils ont vraiment créé toute une atmosphère sur cette émission. Et ils ont un concept d'émission hyper simple, hyper clair, c'est tous les derniers objets à la mode, la dernière enceinte connectée, le dernier iPhone, etc. On les met dans le blender et la question c'est will it blend? Est-ce que ça va se broyer ou pas? Et donc en fait c'est juste du contenu divertissant où on s'amuse à voir si effectivement l'iPhone il arrive à se broyer ou s'il reste des morceaux. Mais le résultat évidemment qui arrive derrière c'est nous on sans s'en rendre compte on se rend compte qu'en fait ce blender
il est super solide.
Ouais. Okay. Il peut prendre tout et n'importe quoi. Et non seulement on passe un bon moment, mais à côté de ça, on se dit putain, si jamais un jour je m'achète un blender, je prendrai un Blendtec parce que je vois à quel point ils sont costauds quoi.
Ils arrivent à passer leur branding, et en plus de ça, il y a le côté dans le format, il y a le côté FOMO.
Oui. Hein.
Est-ce qu'il va réussir à casser les iPhones ou pas ?
C'est ça. Il y a un élément de curiosité.
Ouais, ils ont compris le truc.
Ils ont des millions de vues. Ils ont des millions de vues sur ces vidéos-là et.
Ouais,
leur entreprise dépend en majorité de YouTube, à mon avis, pour leur clientèle.
Ok, donc effectivement, c'est un bon exemple de stratégie dérivée en utilisant les leviers qui fonctionnent sur YouTube, effectivement.
Ouais. Après, ça marche bien pour une petite start-up qui n'a pas beaucoup d'enjeux à côté, qui peut se permettre de jouer sur son image. Pour des grosses entreprises, il y a d'autres stratégies qui sont peut-être un petit peu plus long terme, mais qui sont plus safe aussi en termes d'image.
Oui, bien sûr, eux, ils ont pu se permettre ça parce que de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de se différencier, sinon ils n'existaient pas, donc c'était réglé, quoi. Est-ce que tu pourrais nous dire une stratégie que tu as mis en place pour un client, sans forcément le nommer, dont le résultat te ravit ?
Oui, il y a donc moi je fais des coachings pour des youtubeurs de différentes tailles. Il y a des chaînes YouTube qui approchent ou dépassent les 100 000 abonnés et j'ai coaché des chaînes YouTube avec une centaine d'abonnés, donc toutes petites chaînes. Et il y a une de ces petites chaînes justement qui m'a contacté où c'est un couple qui font ce qu'on appelle la van life, c'est-à-dire qu'ils vivent dans leur camping-car et puis ils partagent leur quotidien en vlog, leur voyage, etc. Et aujourd'hui, il y a énormément de chaînes de van life, c'est très à la mode, et c'est du coup très difficile de percer dans ce milieu-là, d'autant plus que souvent, c'est des personnes qui sont très orientées sur l'image, qui savent faire des très belles vidéos, qui sont très bons en storytelling, qui font des belles miniatures, donc arriver à sortir du lot dans ce domaine-là, c'est très difficile. Et effectivement, ils étaient dans ce cas-là, c'était une chaîne où effectivement, on voit les vidéos, on dit « waouh, les supers images, c'est top, on prend plaisir à regarder », et ça perçait pas, quoi. Et donc voilà, grosse problématique. Et en fait, la bascule qu'on a prise, grâce au coaching, grâce à l'analyse de leur chaîne, c'est que jusqu'à présent, toutes les thématiques de leurs vidéos étaient basées sur les lieux de leur voyage. Et donc en fait, on avait un vlog sur le Périgord noir, un vlog sur l'Écosse, enfin voilà, sur les destinations.
Ouais.
Et en fait, il faut bien comprendre quel est l'expérience du viewer. Et le viewer venait majoritairement par la recherche. Et venait non pas parce qu'il recherchait une chaîne de vlog, mais il venait parce qu'il recherchait des informations sur le Périgord noir, etc. Et en fait, une fois qu'ils arrivaient et qu'ils avaient vu la vidéo sur le Périgord, ils avaient quelques idées de lieux à visiter, ils repartaient, puisque du coup, ils étaient intéressés que par le Périgord et pas du tout par les autres destinations ni par l'histoire de ce couple.
Donc framework art, zéro, quoi.
En tout cas, là, ça marchait pas sur cette thématique-là. C'est-à-dire qu'on amenait les gens, mais pas pour les bonnes raisons.
Okay.
Et donc, du coup, on a commencé à se poser des questions de qu'est-ce qui vous caractérise, vous, par rapport à d'autres vanlifers ? Qu'est-ce qui fait votre différence ? Et ce qui était notamment intéressant avec eux, c'est qu'ils ont toujours la patate, une grande banane, ils positivent à fond, etc. Et moi, j'aurais demandé, est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous avez un peu des grosses galères et tout, justement, et que vous voulez pas montrer parce que vous êtes trop optimiste? Ils ont dit, si, effectivement, il y a des fois, on a eu quelques galères et tout ça. Donc, ils ont fait une vidéo sur une grosse galère qu'ils ont eue avec leur camping-car. Et du coup, ça a créé un peu un décalage. Et souvent, justement, c'est ce côté un peu, enfin, je vais aller un petit peu loin, mais un peu FOMO, un peu fear of missing out, le côté,
ouais.
Tiens, s'il y a une galère, moi qui peux m'intéresser un peu à la van life, je veux éviter d'avoir cette galère.
Okay, d'accord.
Donc, il faut que j'aille voir cette vidéo. Et du coup, ça a pas mal marché pour eux. Ils ont été voir cette vidéo. Enfin, beaucoup de gens ont été voir cette vidéo-là. Pour donner une idée, jusqu'à présent, ils tournaient à 200, 300 vues par vidéo. Et celle-là, en une semaine, ils ont atteint les 15 ou 20 000 vues à peu près sur leur vidéo. Elle continue de grimper aujourd'hui. Donc, c'était vraiment énorme en termes de performance par rapport à d'habitude. Et ça a débloqué leur compteur d'abonnés qui, d'un seul coup, a passé le millier, puis les 2000. Dans la foulée, ils ont fait le van tour, la fameuse vidéo assez classique. Mais ce qui est très marrant, je trouve, c'est que s'ils avaient sorti leur van tour en premier, probablement que ça n'aurait pas beaucoup marché parce qu'il y en a beaucoup des van tours. Par contre, ils ont sorti juste après une vidéo qui a très bien performé. Et donc, quand on accumule comme ça plusieurs fois de suite des très bonnes vidéos qui intéressent une audience large, ça devient exponentiel et ça marche vraiment très, très bien. Et ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont ressorti à nouveau des vlogs sur certaines destinations qu'ils tournaient autrement. Ils montraient que la valeur ajoutée n'était pas que la destination, justement. Donc ça se joue dans le titre, dans la miniature et dans la façon de structurer le contenu. Et ces vlogs-là, maintenant, accumulent plusieurs milliers de vues par rapport aux quelques centaines qu'ils avaient avant. Donc même en revenant sur des formats qui leur plaisaient, qui étaient les formats d'origine, maintenant, ils ont réussi à trouver une audience qui s'intéresse à leur vie, à leur aventure et qui les suit dans leur aventure. Et du coup, là, ils sont partis dans leur aventure YouTube aussi. Et ça me fait très, très plaisir.
Ok. Alors, comment tu fais pour te tenir au courant de l'actualité YouTube marketing?
Tu doutes bien qu'effectivement, c'est une grosse partie de mon boulot, hein, la veille. Et il y a quelques chaînes YouTube qui sont très intéressantes, notamment une d'une équipe de personnes qui bossent chez YouTube. Et qui ont décidé un jour de créer leur chaîne YouTube. Et je trouve ça super intéressant parce qu'ils ont fait ça il y a 2 ans, je crois. C'était l'initiative d'une personne qui s'appelle Tom, qui n'est plus dans la chaîne aujourd'hui. Et en fait, pour moi, c'était la première fois que YouTube expérimentait ce que c'était qu'être YouTuber, en fait. Parce que jusqu'à présent, ils avaient juste leur chaîne officielle sur laquelle ils mettaient des espèces d'animations ou des interviews un peu dérangeantes. Mais ce n'était pas du vrai contenu YouTube, en fait. C'est des vidéos qui ne marchaient pas, qui n'intéressaient personne. Et là, c'est la première fois où c'était quelqu'un qui était dans son bureau. Il dit, salut, je suis Tom, je bosse à YouTube et puis j'ai envie de partager avec vous les expérimentations qu'on met en place, les nouveaux trucs qu'on teste dans l'algorithme, etc., d'avoir vos retours. Et donc, il y a un côté vraiment crowdsourcing, c'est-à-dire, vous, les créateurs, dites-nous un petit peu ce que vous voulez comme nouvelle fonctionnalité et tout ça. Et il y avait un côté vraiment transparent. On a l'impression d'être directement en contact avec les équipes de YouTube parce que c'est sans chichi, c'est pas avec des super éclairages et super effets spéciaux. C'est une vidéo tournée dans un bureau tout bêtement à la webcam. Et en fait, cette chaîne-là, elle cartonne, elle marche très très bien. Et pour
comment
moi,
elle s'appelle ?
Elle s'appelle Creator Insider.
Okay.
Et pour moi, c'est la première fois que YouTube a compris ce que c'était qu'être YouTuber, en fait. Et ça, c'était important parce que YouTube, en fait, c'est que des ingénieurs passionnés d'algorithmes qui voient tout ce que les gens sont capables de faire avec leur plateforme, mais qui eux-mêmes ne savent pas ce que c'est que d'être sur la plateforme. Donc, je trouve ça très intéressant. Et après, j'ai quelques podcasts, alors notamment, c'est souvent des Américains, mais donc il y en a un qui s'appelle Tim Schmoyer, il a une chaîne YouTube aussi, mais je regarde moins ses vidéos.
Mais il est connu, lui.
Et lui, son podcast, c'est Video Creators. Et ce que j'aime bien chez lui, en fait, c'est qu'il se focalise beaucoup sur la partie humaine de YouTube, et notamment, il n'est pas du tout sur les hacks, il est beaucoup plus sur la partie comportement humain et l'impact du comportement humain sur les algorithmes. Et surtout, il est beaucoup, beaucoup axé sur ce que c'est que d'être un créateur YouTube et d'être un YouTuber. Et du coup, comment on peut vivre confortablement avec toutes les exigences que ça peut avoir de créer et de publier du contenu sur YouTube, mais en ayant aussi une vie de famille à côté ou en ayant un boulot à côté, en ayant peut-être une dépression qui peut un jour arriver, enfin, tout ce genre de choses. Pour donner une idée, lui, il a eu 7 enfants en 8 ans, tout en gérant sa chaîne YouTube et son business et tout ça. Donc, il connaît un peu cette tension entre la vie de famille et la création de contenu, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, je suis aussi un podcast qui est où là, c'est des experts en développement d'audience sur YouTube, mais qui travaillent uniquement avec les entreprises. Donc là, je m'y intéresse aussi fortement à cette partie-là parce que c'est une partie de mon activité. J'ai parlé du coin des youtubeurs qui est mon activité de conseil aux youtubeurs, mais j'ai aussi toute une partie qui s'appelle VidéoBiz qui est du conseil aux entreprises pour les aider dans leur stratégie YouTube. Et du coup, je continue de me maintenir aussi en alerte et en veille sur les dernières tendances. Et là, tu as plein de sujets encore qui arrivent avec, j'en sais rien, par exemple, comment bien travailler ces testimonials, donc les retours clients sur nos produits et faire des bons retours clients. Ça c'est des thématiques qui ne concernent que les entreprises et pas du tout les youtubeurs lambda. C'est vraiment deux stratégies très différentes entre une entreprise et un youtubeur.
Ok, super. Je mettrai tous les liens évidemment dans la description du podcast. Pour finir, est-ce que il y a des livres, des films, des personnalités qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent de manière générale? Alors, c'est pas forcément des business.
Alors j'ai assez peu d'inspiration, en tout cas j'ai pas trop besoin d'inspiration dans ma vie pour me motiver à bosser, parce que je suis plutôt quelqu'un qui avance par expérimentation. En fait, j'ai besoin de tester plein de choses, d'analyser et de progresser comme ça, faire un peu ma route.
C'est d'ailleurs c'est la meilleure façon de faire quand son outil de travail est quelque chose qui n'a pas de vérité absolue et que son travail consiste à faire de la rétro-ingénierie. Que ce soit expert YouTube ou expert SEO, ouais. Les seules personnes que vous pouvez écouter, hein, c'est mon petit conseil, c'est les gens pragmatiques qui font que des tests. Les autres, c'est pas la peine de les écouter. Si c'est juste pour relayer des infos qu'ils ont entendues ailleurs, c'est pas la peine.
D'autant que ce sont des systèmes qui sont mouvants en fait et qui changent. YouTube, je crois, YouTube fait plusieurs milliers de changements à leur algorithme chaque année. C'est des milliers, hein, des milliers d'expérimentations, de tests, de choses. Donc, évidemment que les conseils d'il y a 4 ans que vont vous répéter des gens aujourd'hui n'ont plus aucun intérêt, quoi. Donc, il faut se tenir au courant tout le temps. Pour revenir sur les citations,
oui, dis-moi.
Moi, j'en ai deux qui m'ont marqué, mais qui ont marqué il y a quelques années, mais que je garde encore. Il y en avait une de Guy Kawasaki.
Alors, Guy Kawasaki, que franchement, j'adore ce mec et on n'en parle pas souvent.
Ouais.
Les gens, ils l'évoquent pas souvent, ce mec, alors pourtant, il est hyper intéressant et il est même un peu radical dans ses points de vue. Et c'est super intéressant ce qu'il raconte.
Ouais, et puis j'aime bien les gens qui vont un peu à contre-courant et lui, à sa façon, il va un peu à contre-courant. Et ce qui m'avait marqué en fait, c'était qu'il expliquait que malgré le fait qu'il pouvait recevoir parfois 100 ou 150 emails par jour, il disait je fais en sorte de répondre à chacun des emails systématiquement, parce qu'il dit je sais que ça va rien m'apporter pour demain, ça va rien m'apporter en termes de business direct, etc. Mais toutes ces personnes là à qui j'aurais répondu, ça va s'ancrer un petit peu dans leur tête que la vache, Guy quand même il est sympa, il prend le temps de répondre. Et donc le jour où j'aurai besoin de quelqu'un comme lui, je sais que je ferai appel à lui. Ça crée cette connexion en fait moyen terme, long terme, qui paye sur le long terme. Et j'ai trouvé ça super intéressant, surtout que ça va un petit peu à l'encontre des fameuses stratégies des 80-20 où on dit
la loi de Pareto.
Ça c'est 80% de ton temps, mais en même temps qu'est-ce que tu vas en retenir comme chiffre d'affaires dans le mois suivant? Rien du tout. Oui, mais en même temps ça construit des bases solides pour le futur. Et je trouve que sur YouTube, ça se concrétise en répondant aux commentaires de toutes les personnes qui nous contactent le plus possible.
Non, mais je suis complètement d'accord avec toi en fait. Et c'est justement la différence entre l'optimisation court terme et de la construction long terme viable. C'est-à-dire que ce que fait Guy Kawasaki, justement, c'est en fait, il fait une sorte de super activation en fait.
Oui.
C'est-à-dire que, en fait, d'accord, ça va lui faire perdre du temps à court terme, ça va rien lui rapporter à court terme. Par contre, il a fait une super activation dans un modèle art incroyable, qui fait qu'il vient de taper une rétention sur le long terme, sur des années, avec une personne, quoi. Et c'est comme ça qu'on construit quelque chose dans le temps de solide, sur des bases solides, en montrant ce genre de choses que justement les autres ne font pas. Donc il y a deux, ouais, c'est ça, il y a deux leçons. Hein, c'est le fameux « do things that don't scale », ça a toujours de l'impact, et pas seulement dans une phase de démarrage d'activité. Et aussi, si les autres ne le font pas, c'est ça qu'il faut faire.
C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est là que c'est intéressant par rapport à ce que tu dis sur le fait de ne pas non plus essayer de ratisser trop large. C'est que lui, son intérêt, du coup, vous le comprenez bien, son intérêt, c'est pas demain de recevoir 4000 emails par jour.
Ouais.
Parce que s'il reçoit 4000 emails par jour, il peut plus faire ça. Donc, son intérêt, c'est de faire en sorte qu'il ait peu de personnes qui le contactent, mais que ce soit les bonnes. et du coup de nouer des relations très très serrées avec les bonnes personnes et de laisser de côté les personnes qui sont juste là pour choper une info ou qui sont venus parce qu'il y avait un livre blanc gratuit à télécharger. Pas contre toi, mais je sais que il y a des méthodes qui permettent de faire grossir des listes email de malades, mais est-ce que c'est pas pour autant que ça va permettre de plus vendre à la fin.
Exactement, on a vu.
Donc voilà, j'aime bien cet état d'esprit-là qui va un peu à contre-courant des, tout le système des infopreneurs, etc. Et donc dans cet état d'esprit, la façon dont moi je l'ai intégré dans mon business, c'est que je vends une formation pour le coin des youtubeurs, pour ceux qui veulent démarrer, qui savent pas du tout par où démarrer et qui veulent tout le processus, on va dire, pour faire les choses correctement. Et chaque personne qui achète ma formation, qui coûte pas bien cher d'ailleurs, je leur fais une vidéo. Je leur tourne une vidéo dédiée à cette personne. Bah tiens, c'est Émilie qui a acheté ma formation. Bah, je tourne une vidéo en disant « Ah, bonjour Émilie, bah écoute, merci beaucoup d'avoir acheté la formation, ça me fait plaisir. » Et je la guide un petit peu sur les premières étapes à suivre pour que, bah, justement, elle s'active dans la formation et qu'elle s'y mette. Et quasiment systématiquement, le retour, c'est « Oh la vache, t'as tourné une vidéo juste pour moi, ça fait super plaisir. » J'ai jamais vu ça chez tous les gens chez qui j'ai acheté une formation. Waouh, c'est vraiment très sympa. Et souvent, ça permet de lancer la discussion par email aussi. On crée cette connexion et c'est génial. C'est super important. Et moi, j'aime beaucoup créer ce lien avec les gens. Et donc, la deuxième citation qui m'a marqué, c'est quelqu'un que vous connaissez probablement pas, qui s'appelle Cédric Labeau, qui est un entrepreneur. C'est à l'époque où je m'intéressais vraiment à tous les tout le milieu de l'entrepreneuriat, les blogs, etc., dans les années 2000, début 2010, on va dire. Et donc, Cédric avait une fois dit une phrase qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit, en gros, si vous rencontrez des difficultés, que vous êtes face à quelque chose qui est très difficile à faire, la meilleure motivation que vous pouvez avoir, c'est de vous dire que le jour où vous aurez surmonté ce problème, vous aurez une avance considérable sur toute la concurrence. Et en fait, vous aurez éliminé une énorme partie de la concurrence de tous ceux qui n'iront pas qui n'arriveront pas à surmonter le problème. Et donc, en fait, il voyait ça d'une façon extrêmement optimiste de rencontrer des difficultés, parce qu'il disait, imaginez, quand vous serez de l'autre côté, bah, vous aurez éliminé beaucoup de personnes et ça va... Alors, c'est évidemment pas le but d'éliminer du monde, mais ça vous donnera un avantage concurrentiel énorme, en fait.
Ah oui, d'accord.
Et j'aime beaucoup cette idée-là. Et pour moi, ça me motive à aller dans l'adversité, en fait.
Ouais, bah c'est top. Bah, écoute, merci beaucoup, Sylvain, pour ta participation. Merci de nous avoir éclairé sur l'algorithme de YouTube. Je pense que cet épisode est vraiment indispensable. Je pense que si j'avais eu ce genre d'épisode quand j'ai commencé sur YouTube, franchement, ça m'aurait changé la vie. Débunkage dans les règles, magnifique. Donc merci beaucoup, Sylvain.
Ouais, je t'en prie, plaisir.
Bonne continuation et on se retrouve très bientôt, peut-être, pour d'autres aventures. À bientôt.
Salut.
Merci d'avoir écouté cette interview. Si ça vous a plu, rendez-moi un petit service, ça vous prendra 10 secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Tous les détails de l'épisode sont à retrouver sur mon blog, yannleonardi.com. J'ai aussi une chaîne YouTube où je réalise des études de cas marketing. Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite. Alors inscrivez-vous à ma newsletter pour être averti et pour recevoir des conseils marketing et des ressources en exclusivité. À bientôt, ciao.